à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix d'Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina. Pour certains, c'est un miracle, pour d'autres, c'est un événement tragique. Et oui, après 19 Grands Prix dans les points, après 19 Grands Prix à avoir vu le drapeau à damier, Sébastien Vettel a abandonné. Et pourtant, vous savez quoi le pire ? C'est que c'est même pas de sa faute. Pour m'accompagner ce soir, et je suis sûr qu'il a été très triste parce qu'il l'aime bien notre Vettel. Et, hein, tu l'aimes Vettel, Dino ?
Oui, je l'aime. Je t'aime, Sébastien.
Tu trouvais que c'était tragique ce qui lui est arrivé ?
Non, je dois avouer que j'ai sans doute été un petit peu comme tout le monde. Je fais « Ah, ça va être ouvert !» Et puis ensuite, je me dis « Oui, enfin non, ça va pas être ouvert non plus.
» Oui, c'est vrai que ça a pas beaucoup changé la physionomie voilà. De course. Hein.
Mais c'est bien, parce que du coup, ça a peut-être permis à certains de montrer que même sans Vettel, les courses peuvent être chiantes.
Oui, on peut même dire, hein, il a animé la course. Bon, malheureusement, il l'a animé que de virages, mais il l'a animé. Hein, le reste du Grand Prix, ça a pas été terrible.
Oui.
Et dis-nous, nous ne sommes pas seuls.
Nous ne sommes jamais seuls. Ah, les grands esprits se rencontrent. Oui, ce soir, nous sommes trois. Je sais, c'est exceptionnel pour vous. Vous n'êtes pas habitués à ce qu'on soit trois. Hein. Mais nous sommes avec Gus, que vous connaissez peut-être plus sous le nom de Gus Gus, hein, qui participe souvent au live, qui a d'ailleurs nous a aidé une fois au live. Je crois que c'était au Japon. Et donc voilà, on a réussi à le débaucher pour qu'il vienne chez nous. Donc bonsoir, Gus.
Bonsoir à tous.
Alors comme d'habitude, je vais commencer par cette question traditionnelle, même si quand même c'était un Grand Prix de merde. Donc qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix de merde ? Non, je vais pas dire, c'est pas un Grand Prix de merde, il était juste très chiant.
Moi j'ai trouvé que le premier relais était intéressant. Bon après je me suis endormi, mais bon.
Il y a eu des moments intéressants, après voilà, enfin ça n'a pas été non plus l'une des courses les plus passionnantes, c'était un peu mieux que l'an dernier.
Ah bah écoute...
Il n'y avait pas la dramatique de l'an dernier, donc du coup, moi personnellement, ça m'a paru un peu moins... Puis je suis quand même frustré de l'absence de Vettel qui, je pense, ouais. aurait eu une vraie course, je pense qu'on y reviendra.
Ils peuvent dire merci au DRS, hein, parce que s'il n'y avait pas eu de DRS pour les dépassements...
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Donc, mon drive-thru, c'est pour Charlie Whiting ou la FIA, enfin, en tout cas, ceux qui décident des zones de DRS. Parce que moi, je trouvais que c'était vraiment mal réparti, parce que ça devenait évident tout de suite qu'avec les deux zones à la suite l'une de l'autre, le pilote qui passe dans la première zone allait se faire repasser dans la deuxième. Donc du coup, le dépassement était un peu nul et non avenu, et on allait se retrouver avec des dépassements encore plus artificiels que d'habitude, puisqu'ils n'auraient pas lieu.
C'est le défaut de ces doubles zones de DRS. On s'était rendu compte qu'au Canada, avec la chicane entre les deux, le mec arrivé au bout, enfin, je crois que c'est Lagorce qui disait ça sur Dimanche F1, finalement, on n'a qu'une seule zone de DRS. Tu doubles dans la première moitié, tu vas te refaire passer dans la deuxième.
Au Canada, il y avait deux zones, mais un seul chronométrage. Donc en fait, le même pilote en profitait deux fois. C'est-à-dire qu'il doublait sur la première, et sur la deuxième, il larguait...
Voilà.
Ils en ont mis deux. Et donc, en effet, on a eu des échanges de places, et voilà.
Oh, ça a son charme, hein.
C'est clair que quand il y a deux zones, faut pas les mettre l'une à côté de l'autre. Voilà. Même s'il y a la place, mettez-en une, mais pas deux.
Non, puis surtout, je pense que là, on a clairement vu que c'est un circuit qu'on critiquait parce qu'il était pas intéressant, qu'il permettait pas des dépassements. Et là, on voit que, même avec le DRS, c'est pas facile. Donc, je pense que le DRS, il a bon dos, mais il faut aussi, à un moment donné, remettre en cause directement le circuit. C'est le circuit.
Là, oui, le circuit. Là, dans ce cas-là, la zone DRS était dans la zone où, naturellement, il y a plus de chances de faire des dépassements sur circuit.
Quoique, on l'a vu l'an dernier, c'est quand même très dur de faire un dépassement à cet endroit-là.
Sur la première ligne droite, pas beaucoup, mais c'est vraiment tout au bout de la deuxième, quoi. Mais sinon, oui, il y a pas grande possibilité, puisque le début, justement, de la première ligne droite, ça a déjà été dit, ça pourrait être une magnifique zone, s'il n'y avait pas la déviation juste avant, mais ils sont obligés de la mettre, parce que sinon, les voitures arriveraient trop vite sur ce virage et il n'y a pas assez de place. Faut reculer la zone de dégagement de cette petite épingle.
C'est ça qui est terrible, c'est que vraiment tout le monde se dit quand on regarde, ouais, il y a quand même, c'est con cette épingle parce qu'il y a une belle portion de ligne droite avec une belle épingle au bout. La chicane, elle sert à rien. Et on va nous sortir, ah mais ouais, il y a pas ce dégagement. Ben vous avez qu'à reculer l'épingle. Et si c'est la plein... plus courte.
C'est quand même une grosse erreur de Tilke dès le départ, quoi. Il met une épingle et puis il met pas les dégagements derrière. Quoi.
Ouais, voilà.
C'est tout.
Oh, c'est bien, on en a mis plein la gueule au DRS, plein la gueule.
À Abu Dhabi.
À Abu Dhabi. On va peut-être passer au concours.
Mais, t'es, enfin, c'est vrai qu'on peut le dire, hein, Dino s'en est rendu compte. C'est vrai que paradoxalement, les courses chiantes, donne de bonnes émissions du SAV.
Oui.
Et donc dimanche, nous étions le 13 novembre.
Oh non.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. elle fait. C'est un jeu de mots, c'est pas drôle en fait.
Et donc, je vais revenir. Alors ça va, je fais pas du trop vieux cette semaine. Enfin, c'est du vieux, mais pas trop. Mais
ça nous rassure.
Il est allé chercher qu'en 544 avant Jésus-Christ.
Non, je suis juste remonté au 13 novembre 1848 avec la naissance de Albert Ier de Monaco. Alors, j'en ai rien à foutre hein, de Albert Ier de Monaco. C'est juste qu'il est mort en 1922 et donc que c'est sous son règne que sont apparus le Rallye de Monaco et le Grand Prix de Monaco. C'est juste pour ça, je vous rassure. En 1850, autre
naissance... Rassure-le quand même.
Oui, c'est vrai, quand même. En 1850, c'est la naissance d'un écrivain britannique, Robert Louis Stevenson. Est-ce que vous savez ce qu'il a écrit ?
L'île au trésor, un truc dans le genre.
Voilà.
Exactement, l'île au trésor. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est aussi Robert Louis Stevenson. Forcément, on fait pas forcément le rapprochement, mais c'est lui aussi. En 1907, c'est une première scientifique, d'une invention. C'est le premier décollage d'un hélicoptère en France grâce à l'invention de Paul Cornu. C'est comme pour l'avion, hein, il a pas dû décoller de... Mais il a décollé. Non, ça vous intéresse l'hélicoptère.
L'hélicoptère, voilà, l'hélicoptère nous intéresse assez peu, mais on a décidé que c'était la journée de la gentillesse, donc...
Ni Paul Cornu, ça vous inspire pas.
Paul, non. Cornu, ça se discute.
Le 13 novembre 1918, c'est une conséquence de la Première Guerre mondiale. C'est la proclamation de la République en Autriche, suite au démantèlement de l'Empire d'Autriche-Hongrie, hein, suite à leur défaite, hein, lors de la Première Guerre mondiale. Sinon, le 13 novembre 1940, et comme quoi une nouvelle de 1940 peut être une bonne nouvelle. Vous vous souvenez-vous, Dino, oui. il a dit « Ouais, pour les nouvelles de 1940 ». C'est la première cinématographique du film de Walt Disney Fantasia.
Bon, ça dépend pour qui, c'est une...
J'allais dire ça. Donc, grand classique hein, des films d'animation de Walt Disney. À l'origine, il y aura même dû en avoir quasiment un tous les ans. Bon, finalement, il y en a eu que deux. Hein, parce que en l'an 2000 seulement, il y a eu une suite. Hein, donc, avec Fantasia, c'est un peu particulier parce que c'est pas un film d'animation avec histoire, c'est des morceaux de musique classique sur lequel on a mis. En fait, c'est des courts métrages d'animation en réalité qui sont mis l'un après l'autre, dont le fameux apprenti sorcier avec pieds et les balais. Ah. C'est avec son petit chapeau de mage bleu et puis sa tenue rouge.
C'est bien, c'est que j'ai dit, tu sais, comme ça, comme si je l'avais vu. Parce que j'ai une tête à avoir vu Fantasia, je lui dis.
Tu n'as pas une âme d'enfant, c'est pour ça.
Non, j'en ai jamais eu.
Il a jamais été enfant. Il est né, il avait 25 ans déjà.
1951, une grande nouvelle pour le vin français. C'est la naissance officielle de l'appellation Beaujolais.
Tu veux dire que le Beaujolais n'est pas si nouveau que ça?
Bah, il est un peu vieux, mais il est récent par rapport à d'autres grands crus qui sont plus vieux que ça, quand même.
Oui, c'est vrai.
Il a quel goût cette année, le Beaujolais?
Banane.
Oh, banane.
Il a tout le temps goût banane, alors.
Kiwi, tout ce que tu
bientôt,
veux.
Bientôt, ça va être goyave.
Ah bah,
ça, ils l'ont jamais fait, ouais. Ça sera drôle.
Une nouvelle un peu plus triste. Enfin, un peu plus triste. Bon.
Oui, parce que c'était déjà une nouvelle un peu triste, déjà. Hein.
Un cyclone au Pakistan oriental, qui s'appelle en fait le Bangladesh aujourd'hui, fait quand même près de 300 000 morts. C'est quand même un petit peu triste. 1995, date quand même importante, j'ai envie de dire pas de l'histoire politique, mais de l'histoire militaire aussi, de l'histoire du terrorisme. Parce que c'est le premier attentat suicide à la voiture piégée revendiqué par Al-Qaïda.
Ah.
Voilà, c'est la première fois qu'on a entendu parler de Al-Qaïda, qui visait une base militaire à Riyad, en Arabie Saoudite, et qui a fait 5 morts. En 2000, c'est l'ouverture à La Haye pour 2 semaines de la 6e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, hein, pour combattre le réchauffement de la planète. Et comme chacune de ces conférences, bien évidemment, elle s'est terminée sur un...
L'échec.
Sur un échec, tout à fait.
C'est bien, Gus, t'as d'espoir. C'est bien.
Oui, t'as d'espoir. En 2008, une date quand même importante de l'histoire du jeu vidéo, puisque c'est la sortie de la deuxième extension du jeu World of Warcraft.
Oh. Wow, vas-y, répète, Gigi, vas-y, répète.
World of Warcraft.
Waouh.
Non, mais ça, c'est le nom du jeu. Parce que le nom de l'extension, c'est World of Warcraft, Wrath of the Lich King.
Et ça veut dire
Donc, Wrath, c'est la colère du roi Lich.
Ah.
Ça fait rêver.
C'est World of Warcraft, c'est quand même le plus grand MMORPG au monde. C'est 12 millions d'abonnés, hein, connectés ou non connectés, et qui représenterait plus de 60% en fait de toute la masse des MMORPG. C'est WoW pour les intimes, comme on dit.
WoW.
En 2009, une découverte scientifique, puisque c'est la découverte par la NASA de 75 litres d'eau gelée sur la surface de la Lune. Alors ça ne fait pas beaucoup de glaçons, mais c'est quand même super important.
Ouais.
De l'eau, c'est donc, parce que qui dit eau dit peut-être de la vie. Bon là, c'est pas des petits hommes verts, c'est plutôt des petits microbes, choses comme ça. Mais voilà. 2010, c'est la libération du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Après 7 années consécutives en résidence surveillée, parce qu'elle n'était pas en prison. En fait, elle était enfermée chez elle, en Birmanie. À noter d'ailleurs qu'il y a un film sur elle qui va bientôt sortir, de Luc Besson.
Ouais, et qu'elle va sans doute pouvoir se représenter, je crois... aux élections par le biais de...
Il y a encore la junte là-bas, c'est...
Oui, mais en fait, normalement, elle a pas le droit, mais en fait, par un biais d'un autre parti, enfin, c'est un peu... Mais le film de Besson s'appellera The Lady, je crois.
The Lady, ouais, tout à fait. Bah, il sort bientôt, je crois, parce qu'il y a déjà les bandes annonces qui circulent.
Et d'ailleurs, il a dû tourner, alors, dans un pays voisin de la Birmanie, je me rappelle plus le nom.
Oui, je pense pas que, ouais.
Et en fait, ils leur ont pas dit sur quoi c'était le film, parce que sinon, ils allaient se faire virer du pays, parce que le pays voulait pas se mettre, parce qu'il y a quand même un risque d'incident diplomatique.
Bien sûr.
Donc, ils ont dû mentir aux autorités locales pour pouvoir faire le film.
Donc, à noter, en effet, hein, tu l'as dit, Gus, c'était la journée mondiale de la gentillesse. Les médias en ont parlé.
Hein. Oui.
On manque de gentillesse dans ce bas monde. C'était aussi la journée mondiale de l'utilisabilité.
Oula. Ouais. Alors là, on va se marrer quand tu vas nous l'expliquer, Cédric.
Bah, c'est le fait de rendre les choses utilisables. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, tu achètes une télé. Non, un ordinateur plutôt. Imaginons, t'achètes un ordinateur et la notice tout en chinois. Bah, ça, c'est pas de l'utilisabilité. L'utilisabilité, c'est vachement compliqué à dire, c'est le fait de rendre les choses accessibles, simples à comprendre.
Oui.
D'ailleurs, il y a un bon exemple, c'est qu'il paraît que le site internet dédié à cette journée est tout en anglais. Ce qui veut donc dire que toutes les personnes au monde qui ne parlent pas anglais, voilà, c'est pas pratique pour eux. Sinon, dans certains pays, faut noter qu'en Argentine, c'est le Dia del Pensamiento National, c'est-à-dire la journée de la pensée nationale, décidé par une loi de 2003 en souvenir de la naissance de l'écrivain, politicien et penseur Arturo Jorge. Je sais pas ce qu'il c'est, mais voilà.
C'est le cousin de Jean Jorge.
J'adore l'accent Shinji.
Shinji, c'est faire toutes les langues.
Et alors en Équateur, c'est le Dia Clásico del Contador Público, qui n'a rien à voir avec Alberto Contador.
Non, c'est le maire, non?
Non, c'est un autre métier, Contador.
Contador, compteur.
Ah, tu n'es
l'écrivain
pas...
Écrivain public.
C'est pas compteur, c'est compteur, mais pas dans le sens écrivain. C'est
du plutôt... comptable, du fisc.
Exactement, c'est la journée des comptables publics. Comme le premier congrès national de cette corporation en 1945.
C'est le seul pays qui le fait, hein, rassurant.
Et la fondation du premier centre de formation supérieure en comptabilité. Voilà, c'est le jour des experts comptables. Et alors donc en F1, alors j'ai été étonné qu'il n'en parle pas, parce que c'est quand même une date qui n'est pas anodine.
Ah, le Grand Prix d'Abu Dhabi 2011.
Là, il va faire battre.
Non, je prends parfois les années, les Grands Prix de 2011, mais c'est quand vraiment il s'est passé truc.
Bah, Abu Dhabi 2011 quand même, abandon de Vettel.
On va se marrer pour le fait marquant.
Non, je pensais au 13 novembre 1994, Grand Prix d'Australie, et premier titre de Michael Schumacher quand même.
Oui.
Quelle gloire.
C'est étonnant quand même qu'ils n'en aient pas parlé.
Oui, c'est vrai. Premier... En même temps, c'est que le premier. Hein.
C'est pas un ça fait pas un chiffre rond. En même temps, 17 ans. Voilà.
Donc, premier titre de Schumi, premier titre pour un pilote allemand. Donc, ça veut dire quand même qu'en 17 ans, on a quand même eu 9 titres allemands. Hein.
Ouais.
Bon, même si c'est pas équilibré, mais 9 titres en 17 ans, c'est quand même... C'est quand
peut-être même... que dans 10 ans, ça le sera. Hein.
Oui. Oh, peut-être moins que ça. Oh. Est-ce qu'on rentre dans une ère Vettel? Non, on y est déjà. Et donc, j'ai envie de prendre le point. Ce qui est génial avec les statistiques, c'est que tu peux prendre plein de points de vue autour pour faire plein de statistiques différentes. Et donc, je suis parti des titres de champion du monde, mais cette fois-ci de voir par nation.
Ah, d'accord. Pour
les titres de champion du monde par pilote, combien de titres avait eu chaque nation? Et plus que de voir combien de titres par personne, surtout, j'ai essayé de voir s'il n'y avait peut-être pas eu des périodes un peu de domination d'une nation ou pas du tout.
D'accord.
Donc je l'ai dit, hein, donc l'Allemagne c'est 9 quand même, hein. Schumi a été le premier, donc 7 titres pour Schumi, 2 titres pour Vettel, mais d'après vous, est-ce que ça se place bien justement dans la hiérarchie
C'est pas ex aequo avec le Brésil et derrière la Grande-Bretagne?
Alors tu as presque bon, tu as bon à 75%.
Ah, donc c'est derrière la Grande-Bretagne et c'est devant le Brésil.
Voilà, donc en effet en premier, il y a le Royaume-Uni, est-ce que vous avez une idée du nombre de titres pilotes qu'a pu avoir le Royaume-Uni en 62 saisons de Formule 1
Button, Hamilton...
Bon alors là après maintenant on remonte à qui?
Il y a Hill, 16. Bon après... Après, j'ai plus trop de souvenirs de ces années-là.
Fais la technique habituelle, dis plein de chiffres au hasard. T'es sûr de tomber sur le bon.
C'est pas 16.
18.
Ah, tu es très optimiste, c'est 14.
14.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les 14, il y en a quand même 10 entre 1958 et 1976. Donc ça fait presque 1 sur 2 quand même, un titre sur 2 qui est quand même revenu à un pilote britannique, hein, parce que anglais, écossais, voilà. Et donc après, c'est vrai que après Hunt en 76, alors que pourtant on a continué à avoir des très bons pilotes britanniques,
oui.
Eh ben c'est devenu beaucoup plus disparate puisque après 76, il a fallu attendre 92 avec Mansell, puis bon 96 avec Hill, puis un gros creux et donc les deux Anglais de suite, hein, donc Hamilton et Button 2008-2009. Mais voilà, ils ont eu une grande période faste, c'est celle des années 60 et même 70. Hein,
je crois d'ailleurs que dans le SAV, on avait dû faire, dans le guide du SAV, on avait dû faire une statistique comme ça. Je crois que c'est la première saison depuis les années 70 où il y a trois pilotes britanniques au départ.
Oui, alors qu'avant, il y en avait beaucoup plus, oui. On avait fait une statistique où, en effet, on se rendait compte que sur la taille du paddock, en effet, la part de britanniques était beaucoup moins importante qu'auparavant.
Je crois que Dino a oublié de préciser que le guide du SAV était toujours en vente.
Oui, oui, toujours en vente, hein, sur thebookedition.com. Vous cherchez le guide du SAV. Il est à 14,99€, je crois. Oui, et je rappelle que les bénéfices seront redistribués dans le cadeau du concours Top Opposition.
Donc voilà, 14 titres pour les Britanniques. Donc on l'a dit, les Allemands 9, mais finalement, leur grande période, bon, enfin, c'est pas vraiment une grande période, c'est une grande période d'un pilote.
Grande...
Et peut-être
ouais, voilà.
Deuxième qui commence. Voilà. Donc à 9.
Il y a eu 39-45. Il y aura.
Tout à l'heure, je voulais la faire dans le même genre. Je vais me retenir.
Non, mais c'est vrai qu'il y a eu de très bons pilotes allemands avant-guerre, hein, avec les Mercedes et tout ça. Hein, faut pas l'oublier. Ça a été
une grande année. Bah, il y a le vieil exemple, c'est Von Trips qui, quand même, se tue en 61 à Monza.
Oui.
Alors qu'il pouvait, c'est Phil Hill qui est titré par la mort de Von Trips.
Oui, voilà, il avait la possibilité. Oui.
Et puis bon, on peut quand même juger que dans ces années-là, le retrait de Mercedes et l'accident du Mans a eu un impact sur la présence des pilotes allemands.
Oui, enfin, parce que finalement, sur la période juste avant Schumi, on peut pas dire qu'il y ait eu beaucoup de pilotes allemands. Par contre, justement, entre Von Trips et Schumi, et donc tu l'as dit, Dino, juste en dessous de l'Allemagne, il y a le Brésil.
Brasil.
Et d'après toi, donc le Brésil.
Alors, Brésil, c'est facile.
Ah oui.
3-9. Attends, j'en oublie pas.
9
3 de Senna, 3 de...
Et Fittipaldi, il n'y en a que 2, je crois.
Il n'y en a que 2, en effet. Ça fait 8, ce qui en fait quand même la troisième nation hein, en termes de pilotes. Donc là, c'est vrai que si on devait donner une décennie de domination, si les Anglais, ça a été 60-70, les Brésiliens, c'est les années 80, forcément. 81, 83, 87, 88, jusqu'en 91.
Mais c'est aussi parce qu'il y avait un système, je pense qu'il faut vraiment tenir compte du rôle de Fittipaldi.
Oui.
Il y avait un système vraiment de parrainage, de pilotes de F1 déjà en place et des nouveaux pilotes, au point que je crois que, en arrivant en Europe, Senna a été épaulé par Fittipaldi, limite à dormir chez lui. Donc il y avait un vrai système d'accueil en Europe des pilotes brésiliens.
Et depuis, c'est vrai qu'on a toujours un Brésilien, au moins un, dans le paddock. Bon là, pour l'instant, on en a deux.
Oui.
Tu me comprends pas?
Non, trois.
Trois.
Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont invisibles.
Bah, Rosberg n'est pas brésilien.
Ah oui, bah oui, en plus, je pense
que c'est
Barrichello.
J'oubliais Senna, en fait, c'est pour ça que je...
Moi, c'est Barrichello. C'est-à-dire que c'est bientôt la fin. Mais...
Moi, c'est Massa, j'ai oublié.
Voilà, chacun son... Et donc, après le Brésil, hein, donc, qui peut bien être à la quatrième place? Là, il y a une petite marche.
La France?
La France, non, n'est pas quatrième. N'en a que quatre.
L'Italie?
Oh non.
L'Argentine, Fangio.
Eh oui, bah oui, l'Argentine, Fangio. Bon là, bah forcément, c'est les années 50, hein, c'est Fangio.
C'est surtout Fangio, quoi. C'est...
Voilà, c'est plus que l'Argentine, c'est Fangio. Parce que même après, on peut pas dire qui ou de...
Bah, il y a eu Rotman, non?
Bon, bah ouais, c'est ça, c'est, je me dis, bah justement, je pense à Rotman.
Un prétendant, mais...
Mais à part Rotman, finalement, et
Roberto
aujourd'hui...
Santana, en 97.
Ah, nous a laissé un grand souvenir, celui-là.
Donc, après l'Argentine...
La France?
Non, alors si, alors, il y a la France, parce que là, il y a un paquet à 4. Donc,
il y a
la...
aussi à 4.
L'Italie n'est pas à 4. Donc, pour revenir sur la France, hein, forcément, c'est l'équipe de Prost, forcément. Ouais.
L'Italie, ils sont qu'à 3?
Ils sont qu'à 3. On y reviendra quand on parle d'Italie. Il y a 2, 3, 4 pays.
L'Autriche?
Eh oui, l'Autriche.
Avec Loda, 3 fois, et puis Rindt.
Rindt, voilà, en 70, faut pas l'oublier. Donc là, on peut pas... Là encore, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de domination. Enfin, si, il y a la domination, mais de Loda, finalement.
Oui. L'Espagne, non, il y en a que 2.
Non, je dis... Il, non, il
la
en
Finlande
reste... Eh oui, la Finlande.
Mika Kinen, Raikkonen...
Et
Rosberg.
Non,
si.
Bah, oui, Rosberg. Si, qui est Rosberg. Donc là encore, c'est pareil. Hein. Y a pas... enfin, on peut parler des deux années à Kinen, mais il n'y a pas vraiment de domination. Par contre, c'est vrai que ça doit être un des plus petits pays... parce que c'est vrai que la Finlande, c'est quoi? C'est 10 millions d'habitants? Je sais plus.
Ça aurait été intéressant, ça.
Ah, ouais, ouais. Bah, je le ferai peut-être un jour. Mais c'est vrai que par rapport à la taille du pays, bah, 4 champions, enfin, 4 titres, hein, pour un pays plutôt réputé pour ses rallymen, c'est quand même pas mal. Il en manque 1 à 4, qui n'est pas un pays européen. Vous êtes.
États-Unis? Bah non, États-Unis. Ah! Non, ils en ont eu 2.
C'est pas les États-Unis, tout à fait.
Pas le Canada. Un pays américain?
C'était pas un pays américain.
Ah bah oui, non, oui, c'est l'Australie, c'est avec
bah oui.
Jones, Brabham.
Oui, bah oui,
et
3
titres
Brabham. Et
ah, il en a eu 3 Brabham.
59 et 60, si je me souviens bien, c'était sur Cooper, je crois.
Oui.
Cooper ou Lotus. Et ce fameux titre de 66, qu'il obtient sur Brabham. Hein. Et donc aussi le titre d'Alan Jones.
80.
Premier titre de Williams, si je me souviens bien.
Ouais.
Donc là encore, c'est pareil, hein, c'est, y a pas vraiment de période de domination. Y a celle de Brabham, en fait. Mais pas vraiment d'un pays. Donc voilà, c'était ceux qui sont à 4. Donc en effet, après, il y a l'Italie.
À 3.
Ça, c'est le grand drame italien.
Oui.
Hein. Farina en 50, Ascari en 52 et 53. Ça fait quand même, 60 ans qu'ils attendent un champion du monde italien, les Italiens.
Ouais, qu'ils attendent.
Donc sinon, tu l'as dit, hein, les États-Unis 2.
61 et 78.
Exactement, Phil Hill et Andretti. Il y a un autre pays à 2, c'est facile.
Belgique? Ah non.
Bah non, c'est facile. C'est récent.
Ah, l'Espagne.
Ah, l'Espagne, oui.
Bah oui, l'Espagne.
Il a dit tout à l'heure.
Merci, Gus.
Alonso, 2005 et 2006. Et donc, il y a 3 pays qui n'ont eu qu'un seul titre. Dont un que tu as déjà cité, c'est le Canada. Jacques Villeneuve en 97. Il en reste 2.
Alors, qu'est-ce qui reste? Afrique du Sud, Scheckter.
Exactement. 19.
Puis,
te manque le champion du monde 1967.
67? Merde, c'était qui en 67? 70, Rindt, 69, 69.
Année érotique.
Ah, il avait de belles rouflaquettes.
Des rouflaquettes?
Oui, enfin, en tout cas, moi, à chaque fois que je vois des photos de lui, il a des rouflaquettes.
C'est quoi, je pense rouflaquettes? Je pense Fittipaldi, moi.
Ah, c'est vrai. Lui aussi, on a eu de très très belles. Mais c'est pas le seul. C'est la même époque, hein, en même temps. C'est...
On va trouver.
Ouais.
Sur Brabham.
Ah la vache. Attends, je mets pause. Merde, c'est qui celui-là?
Avec 2 victoires.
Avec 2 victoires en carrière?
Non. L'année de titre. Il y en a eu 8 victoires. Ensuite, il est parti chez McLaren, qui était lui aussi néo-zélandais. C'est pour ça.
Denny Hulme,
oui. c'est celui dont on se souvient jamais, là.
Qui ça?
Eh oui,
attends, je vais trouver.
Bah, c'est...
c'est un petit, bah c'est tout.
on pourrait essayer de faire la liste des pays qui en ont toujours pas.
Oh non, là quand même.
on pourrait faire la liste des pays qui pourraient bientôt en avoir.
Ah ça peut être intéressant, tout à fait.
Le Venezuela.
Ah là c'est ouais, c'est très très optimiste.
Bah, quand on regarde, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup...
Le
Mexique avec Pérez.
Le Mexique, pourquoi pas le Japon un jour?
Non, jamais de la vie.
Avant 2011, on aurait pu dire la Pologne, maintenant ça semble...
Ouais, c'est vrai. L'Inde, va savoir.
Pas de bras, pas de championnat. Je m'excuse auprès de tous les fans de Robert Kubica.
Et des manchots.
Un Belge avec D'Ambrosio. Ah bah non, c'est con, il va être remplacé par P. Allez, pour toi, Benoît.
Allez, on va passer à l'actualité.
Allez aussi pour Sergent Pepper. Pensons à tous nos invités belges.
Oui.
Je voudrais pas qu'ils se sentent rejetés.
On aimerait bien compatir pour vous, mais c'est un Français qui prend
oui,
sa place.
Voilà. Oh. À la foutre.
Même plus, un Dromois.
Youhou. Ouais, bonsoir.
Allez, dis-donc, on va passer à l'actu.
Oui, l'actu, avec le top 10 de l'actu, hein, donc parce que ça sur cette fin de saison, il n'y a pas grand-chose à dire dans l'actu. D'ailleurs, vous allez voir que certaines actus sont pas forcément très intéressantes. Voilà. Et donc, en 10e position, vous avez le plus lu comme actualité sur fanf1.com, l'article qui reprenait les déclarations de David Coulthard et de Johnny Herbert sur l'accident de Massa et de Lewis Hamilton. Coulthard qui, lui, avait plutôt tendance à partager d'ailleurs l'opinion que j'avais manifestée dans le SAV, c'est-à-dire que Massa n'était pas vraiment coupable, qu'il défendait plus sa ligne, que c'était plus Hamilton qui, lui à sa place, il aurait plutôt jugé Hamilton parce qu'il tentait de trop loin, et Herbert lui qui était poussière et qui a dit non mais nous quand on a regardé l'accident était évitable en regardant les vidéos donc la pénalité s'imposait. Voilà, donc nous on a déjà commenté Shinji, mais par contre ouais. Gus, je sais pas si t'as...
Ben moi j'étais pour dire que c'était un incident de course, que s'il y avait une responsabilité était entièrement partagée par les deux. Parce que d'un côté, Massa, il ouvre pas trop la porte à Lewis, mais de l'autre côté, Lewis, il y va, alors qu'il sait très bien, déjà que Massa, il est prêt à lui refermer la porte dessus, après les antécédents qu'ils ont eu. Et voilà, et les deux ont pas lâché, et donc le contact était finalement assez logique, hein, par rapport à ce qui s'est passé entre les deux.
Oui, c'est vrai.
Et puis, j'avais mis comme commentaire sur FanF1 que j'étais complètement d'accord avec le drive-thru de la semaine dernière, je crois que c'était Iceman Air qui l'avait fait. Et qu'il expliquait exactement ce que je voulais dire à ce propos, quoi. Les deux, ils ont besoin de se parler et d'arrêter ça, parce que c'est ridicule, quoi.
Oh, cette semaine, il n'y a rien eu.
Il y a rien.
Bah oui, en même temps, Massa, il
s'est dit. Ah non, parce qu'on a découvert qu'Hamilton était de nouveau pote avec Alonso.
Oui. Alors ça a été énorme. Alors ça, ils se sont fait des bisous et des petites caresses dans la presse, par presse.
Alors, en effet, c'est vrai. Maintenant, ils pourraient être dans une même équipe, hein. Ça, il n'y a pas de problème.
Parce que alors c'est Alonso qui a été un beau joueur qui a dit bon bah faut qu'il a pas mal défendu Hamilton en disant que bon il connaissait une période de creux mais que quand il allait revenir il serait encore plus fort etc. Et apparemment même Hamilton ça l'a laissé sur le cul. Comme quoi vous voyez Ferrari ça change un homme.
Oh, c'est ouais. Bon. C'est le fait de plus être copié avec lui.
Il y a 4 ans qu'ils sont fêtés, quoi.
Oui voilà. Alors on passe à la 9e actu. C'est une actu qui s'intitule « Un nouveau président pour Renault Sport F1 en 2012 ».
Oui, j'ai lu.
Oui, ça avait changé, oui.
Ah, ça sera qui ?
J'ai pas retenu comment il
s'appelle. Parce que là,
il a 58 ans.
C'est... Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu un commentaire de je sais plus qui a dit « Oh là, c'est tous des vieux, etc. » Oui, enfin, en même temps, pour être président de Renault Sport, il faudrait Sport avoir un petit peu de travail dans la boîte avant, quoi.
Ils vont pas mettre des gars de 25 ans non plus, hein.
Oui. Bon, bah, on passe à la 8e, alors.
Oui, ouais. Parce que c'est vrai que Renault...
Eh ben, on n'est pas très loin de Renault.
Aïe.
Puisqu'on est chez Red Bull.
Ah.
Et puis Red Bull qui était pas contente. Parce que, encore une fois, Vettel a fait un meilleur tour dans le dernier tour en Inde. Alors qu'il lui avait dit, bon, Sébastien, tu fais pas le meilleur tour. Et il l'a fait quand même.
D'ailleurs, peut-être que l'histoire dira que la crevaison au premier tour, c'est parce que le châssis est endommagé. Suite à ses meilleurs tours en course, à la fin de course. Voilà.
Oui.
Sa faute.
Peut-être.
Ouais, on coupera au montage, ça. Hein.
Non, on va la laisser. Moi, je l'aime bien. Mais enfin, moi, en même temps, j'ai envie de dire, on est à 3 grands prix de la fin. Il est déjà champion du monde. Il s'est quand même pas mal privé de meilleurs tours cette saison en économisant son moteur, en économisant sur les fins de course.
Oui.
J'ai envie de dire, putain, les mecs, lâchez-lui la grappe, quoi. S'il a envie de faire meilleur tour, laissez-le le faire. Il va se faire plaisir. Bon, le risque qu'il prend, c'est d'un petit peu paraître vouloir enfoncer ses camarades et donc du coup susciter chez eux l'envie de nous revanche et ne pas forcément avoir l'air sympathique parce qu'on n'aime pas les mecs qui enfoncent volontairement la tête des autres auprès du public. Mais bon, voilà, il était très professionnel jusque-là. Bon, bah, s'il veut se faire un petit plaisir dans le dernier tour, lui non, au moins, j'ai envie de dire, je vais m'attirer les foudres de certains, je le sais. Mais lui au moins, il était champion du monde quand il faisait les meilleurs tours. C'est pas comme certains qui ne faisaient que ça sans être champion du monde.
Oui. Attaque frontale.
Et je dis ça en étant fan, hein, mais voilà. Là, au moins, quand on gueulait sur Kimi, on gueulait parce qu'on disait, bon, il fait les meilleurs tours, mais il gagne pas la course, il fait pas de podium, il fait rien. Là, c'est bon, attends, il gagne la course, il a quand même le droit de se faire plaisir à la fin. Passe à la suite, messieurs.
Oui.
Et on reste chez Red Bull.
Chez Red Bull. Ah.
Il me semble que c'est la chronique de Benoît de la semaine dernière qui s'intitulait « Pourquoi Marc Weber ne gagne plus ?»
Bah, on a peut-être eu quelques éléments de réponse dimanche. Oui, que bon, ça aurait pu être son week-end.
Je pense sincèrement que là, pour la première fois de la saison, il s'est retrouvé seul en piste, puis quasiment toute la course. Hein. Enfin, 54 tours, 75. Ce qui a été criant, je trouve, dans les décisions de l'équipe, dans l'ensemble de la course, c'est le manque d'un leadership. Et c'est là où on voit que je pense que peut-être que vraiment tous les esprits sont focalisés sur Vettel. Parce qu'il y a une erreur au stand, normalement, qui devrait pas avoir lieu. C'est la preuve que les mecs sont déboussolés, qui sont sortis de leur repère. La stratégie, j'y reviendrai, mais on se pose quand même beaucoup de questions. Dont je me demande, effectivement, si le problème de Marc Weber, c'est qu'il n'est pas tout simplement isolé dans sa propre équipe, quoi. C'est que, voilà, sincèrement, dimanche, c'était criant.
Bah ouais, parce que, on y reviendra, mais c'est vrai qu'alors qu'il était seul dans l'équipe, on n'a pas l'impression que l'équipe soit jetée sur lui, justement, en repli, quoi.
Oui, on a plus eu l'impression qu'il savait pas quoi faire.
Non, puis c'est vrai que ça a dû quand même l'assommer, quoi, la réussite de Vettel cette saison, et de voir que lui, il stagnait un peu. Parce que bon, c'est pas que ce dimanche-là, quand même, qu'on a vu ça. Ça fait quand même, c'est depuis le début de la saison qu'on comprend pas pourquoi Marc Weber, il fait pas mieux que ça.
Bon, surtout sur Marc Weber.
Si, peut-être un truc que je pourrais rajouter, c'est que Weber se retrouve souvent assez loin derrière un qualif. Il est derrière des McLaren ou une Ferrari. Enfin, il est régulièrement jamais sur la deuxième ligne. Et ce que je comprends pas, c'est que du coup, il règle sa voiture avec des rapports courts, etc. Et qui font qu'il pourra pas dépasser. Il aura beaucoup plus de mal à dépasser en course. Et que du coup, sa course s'en trouvera
mais le problème, c'est que les rapports de boîte sont arrêtés le vendredi.
Oui, c'est vrai. Bon ben j'ai rien dit.
Non mais c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est clairement aussi ce qui l'handicap, quoi. C'est qu'ils ont une voiture qui est moins performante en pleine charge. Quoique c'était un petit peu le paradoxe ce week-end, c'est que là où ils étaient les meilleurs, c'était dans le premier et deuxième secteur, mais pas dans le troisième, qui est pourtant beaucoup plus sinueux, oui. Et où il y a besoin de plus d'une voiture stable. Et mais c'est vrai, voilà, c'est un peu le défaut de cette voiture, c'est que en ligne droite elle se traîne un peu. Mais on a vu par exemple à Monza que même en se traînant un peu en ligne droite et en vitesse de pointe, ils étaient capables de mettre une pile aux autres. Donc on passe à la news suivante, messieurs.
Ouais, on passe à la news suivante.
Oui.
Et donc, la news suivante, qui est la sixième news déjà.
Oui.
C'est un article qui porte plus sur Red Bull. On est sorti du cycle Red Bull infernal de ces dernières minutes. Mais il porte sur une autre légende de la Formule 1, qui a fêté d'ailleurs les 17 ans de son premier titre dimanche. Ah oui, j'ai dit, je retiens. C'est Michael Schumacher, qui est le champion du premier tour. Puisque c'est lui qui gagne le plus de place.
Bravo.
Il aura un trophée à la remise des prix FIA, là?
Non. Bon, alors avec ce petit côté quand même qui est... oui, d'accord, il est champion du premier tour, en même temps, vu où il part,
oui,
c'est
oui.
Sûr que ça peut pas être Vettel, quoi.
Voilà.
Donc en parlant de Vettel, on va peut-être passer à l'actu suivante.
Bah oui, c'est quoi, ouais.
Puisque devinez, c'est une actu qui parle de Vettel.
Wow.
Et je crois que cette fois-ci, c'est la chronique hors-piste d'Axel qui s'interrogeait. Qui de Vettel ou Newey fait gagner Red Bull? Et moi je dis, c'est une putain de bonne question.
C'est vieux comme la F1 cette question.
Oui.
Hein, c'est... Bah écoute, j'ai envie de dire, vu ce qu'on voit de Marc Weber. Ah bah oui, on voit bien qu'il y a un différentiel entre les deux, donc la base est très très bonne.
Non mais quand même, je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit dans les commentaires de la chronique, mais... Et il faut quand même pas oublier Weber, parce qu'il contribue aussi au développement de la RB7.
Oui.
Donc, quoi qu'il arrive dans les succès de Vettel, il y a toujours une part du travail qui est due à Marc Weber, et donc à ce moment-là, il faut pas l'oublier. Et aussi à Jean-Éric Vergne, qui fait du boulot dans le simulateur de Red Bull.
Ouais, et qui adore ça.
Oui.
Mais c'est vrai que, comme tu disais, Shinji, c'est, faut pas oublier, c'est qu'avant tout, c'est, je trouve que si la question est intéressante et qu'elle se justifie, enfin,
oui.
Il faut se la poser, elle est nécessaire. Mais en même temps, On sait très bien que la Formule 1, enfin les sports mécaniques, sont avant tout des sports d'équipe et que tu n'es strictement rien sans ton équipe, sans ta voiture, sans tout un tas de choses. Donc, je pense que c'est plus que de savoir quelle est la proportion de chacun, c'est de se dire, voilà, on a deux ingrédients, on les mélange dans un bol et voilà ce que ça donne, quoi. C'est de l'ordre de la physique et de la chimie, une écurie de Formule 1, c'est pas de la statistique ou de la comptabilité.
De toute façon, dès qu'une voiture gagne, dès qu'un pilote gagne, la question se pose, hein, c'est normal en F1. Passe à l'actu suivante ou vous voulez rajouter quelque chose?
Non, ça ira.
Alors, quatrième actu. C'est la chronique d'ailleurs encore de... Mais la chronique d'il y a 2 semaines, chronique d'Axel, qui était plus un entretien qu'une chronique puisqu'il a eu la chance de rencontrer Stéphane Clerc, qui est le nouveau directeur du circuit Paul Ricard. Une interview très intéressante qui trace un petit peu le parcours du nouveau président du circuit et qui met un petit peu en perspective l'avenir du circuit. Et notamment, ce qui est assez étonnant dans cette interview, c'est qu'on se rend compte finalement que dans le projet dont on parle souvent de retour d'un Grand Prix de France, notamment en 2013, qui a fait bruit au Grand Prix de Belgique, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, le Paul Ricard n'est pas le vrai candidat. Le vrai candidat, c'est la France. Et que le Paul Ricard est davantage une éventualité et un interlocuteur qui permet
Il n'a pas l'air d'être au cœur du projet.
Voilà, ils sont un peu à part. Ils disent voilà, nous, on se contente de dire voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut accueillir et compagnie. Et après, si la France obtient le Grand Prix, on sera prêt à accueillir, on mettra tout ce qu'on a dit en place.
Le problème, c'est que j'ai lu, je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs, et sur le blog de Jean-Louis Moncey, que le projet est un peu au point mort en attendant les élections présidentielles parce que il y a l'implication du gouvernement dans le projet et que si jamais il devait changer en mai-juin, le projet serait à revoir complètement.
Donc on attend... C'est vrai que on attendait des choses pour le Grand Prix du Belgique et puis il n'y a pas eu d'annonce. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à se dire c'est bizarre. Et puis là, oui, c'est vrai que pour le coup, oui, ça, comme beaucoup de choses, ça va attendre le mois de mai. Hein, oui.
On passe à l'actu suivante alors.
Bien sûr.
Et on monte sur le podium. Un podium qu'il n'a pas vu depuis très longtemps d'ailleurs. C'est Rubens Barrichello qui se voit en Formule 1 en 2012.
Ouais.
Très optimiste.
Très optimiste, ouais.
On va peut-être d'ailleurs passer à la deuxième actu, comme ça on verra un petit peu la situation réelle de notre ami Rubens.
Vas-y, parce qu'on s'en doute et ça va être dans le prolongement finalement. Donc.
Puisque, voilà, c'est s'il dit que lui il se voit en Formule 1 en 2012, c'est qu'il y en a certains qu'il ne voit plus, à commencer par ses actuels patrons, Williams, dont on a d'abord dit, bon, vous savez, il y a la rumeur à Raikkonen, on a d'abord dit, et c'est l'un des articles qui a été le plus lu sur le site de FanF1, que Kimi Raikkonen n'était pas encore chez Williams.
Non.
Puis ces derniers temps, ça s'est rapproché avec les déclarations de Toto Wolff, l'un des actionnaires de l'écurie depuis 2009, 2010 je crois. Et donc lui qui a directement révélé oui, on négocie avec Kimi Raikkonen, mais aussi avec Jules Bianchi.
Oui, c'est ça. On a beaucoup focalisé sur Raikkonen, mais il y a aussi le fait que peut-être ça pourrait être Bianchi.
Et il y avait aussi comme nom Bottas.
Il y a Bottas
pour des essais. Voilà, c'est
mais
il négocie avec Raikkonen et Bianchi pour un poste de titulaire et Bottas pour des essais le vendredi matin.
Et pas ignorer aussi la possibilité, même si elle paraît s'éloigner, Sutil.
Oui.
Qui a un nom qui est pas à ignorer non plus.
Bien évidemment, comme ça commence à un petit peu se faire sentir, c'est commenté par un petit peu tout le monde dans la Formule 1. Et là, forcément, il y en a un qui fallait qui commente, hein, qui dise qu'il était content de l'idée que Raikkonen revienne en Formule 1.
Il y a des gens qui ont dit des choses quand même assez étonnantes, hein, cette semaine.
Après l'avoir un tout petit peu poussé quand même vers la sortie, c'est Luca Di Montezemolo qui a dit « Ouais, je suis content de le revoir. » Oui. En même temps, il t'a coûté cher pour que tu le voyes plus, donc.
Ouais.
Non, c'est surtout qu'il serait content de le voir dans une Williams, qu'il soit bien loin de.
Ouais.
Bien loin de notre Ferrari.
Non, mais c'est vrai que, déjà, pour le coup, c'est plus vraiment une rumeur. Enfin, on sait pas s'il va signer, mais maintenant, on est sûr qu'il y a des négociations.
Ouais. Alors, même Kimi a confirmé ensuite, hein.
Voilà. Il y a des négociations. Et donc, apparemment, ça serait intimement lié, c'est pour ça que certains ont supposé qu'il y aurait une annonce ce week-end avec un sponsoring de la Qatar National Bank. Mm. Parce que c'est eux qui amèneraient l'argent pour payer Raikkonen. Et qu'apparemment, le fait que Raikkonen vienne serait, un préliminaire, justement, au sponsoring, de cette société.
D'ailleurs, il y a des gens très malins qui ont réservé les noms de domaine des sites de Williams, qnbwilliams.com, qnbwilliamsrenault.com.
Et il y en avait déjà un qui avait fait ça
avec Renault, ce qui est complètement crétin, surtout quand l'équipe possède le nom de domaine www.williamsf1.com.
Oui.
Voilà. Parce que bon, c'est vrai, tu peux taper ATT Williams, tu tombes sur le site. Ouais, c'est ça, je crois, ATT Williams, du nom du sponsor. Mais tu tapes WilliamsF1.com, tu tombes aussi sur le site. Enfin, WilliamsF1.com, c'est quand même l'adresse la plus simple possible pour cette équipe.
Oui.
Voilà.
Bon, de toute façon, les trois quarts des gens, ils vont chercher sur Google. Alors.
Oui, de toute façon.
Oui, voilà. Donc alors, en 2012, chez Williams.
Bah, Kimi.
Ah, ça ferait déjà du bien à beaucoup de femmes, hein. De fans, fans.
Ah, non. Écoute, on a dit beaucoup de choses de Kimi, mais.
Il y en a peut-être qui se trouvent mignons, je sais pas. Non, ça ferait du bien à beaucoup de fans, et puis, non, ça ferait du bien à moi aussi. Moi, j'aime bien Kimi.
Ah, puis Bernie va pas être contre, hein. Si champion du monde sur le plateau.
Bah, j'ai arrêté.
Ah, on me dit que les classes Miko voudraient bien le sponsoriser.
Non, puis il a l'air d'être motivé pour peu qu'on l'emmerde pas avec tout ce qu'il y a autour, avec les sponsors et tout ça. Voilà, si Williams prend Kimi, faut pas qu'il cherche à adapter Kimi au système, quoi. Va falloir le prendre comme il est.
Mais je sais plus qui a dit ça sous quel, mais c'est vrai que c'est peut-être, finalement, Williams, c'est peut-être une bonne écurie pour Kimi, parce que les cadres de Williams correspondront mieux au caractère de Kimi.
Kimi, ouais.
Et on parle même, j'ai entendu ça sous Ken, d'une entrée au capital de Kimi Raikkonen dans l'écurie Williams.
Voilà. Alors, il paraît que l'action ne coûte pas très cher, hein, donc.
Avec les frères Robertson, il y aurait un plan pour faire, parce que c'est vrai que Kimi a quand même déjà créé certaines de ses structures. Donc,
oui.
Faut juste que Kimi soit pas champion du monde avec Williams, sinon il va avoir de sérieux problèmes comme les Villeneuve, les Hill.
Quelque chose me dit que si en l'état il devient champion avec Williams, il y a certains pilotes qui peuvent s'inquiéter de leur stature.
Ouais.
Hébert, Button.
Mais c'est ce qu'on dit aussi, hein. On dit que s'il passe chez Williams, peut-être.
Bah, à terme, oui. Après, ça dépend. Voilà, faut aussi regarder son âge. Je sais pas quel âge il a. Maintenant, il a 31, 32 ans, peut-être. Bon, il a pas non plus toute une carrière complète qui l'attend en Formule 1. Donc, peut-être qu'il fera juste 2, 3, 4 ans, comme ce que fait Schumacher actuellement. On murmure que Schumacher pourrait prolonger en 2013. Donc, voilà, qui sait, peut-être qu'il fera une aventure assez courte avec Williams, qu'il aura fait le tour et qu'il prendra une vraie retraite.
Pour le coup, c'est une des clés des transferts. Enfin, avec toujours le mystère Lotus Renault, mais.
Ouais.
Si déjà on a des certitudes sur le baquet Williams, ça va peut-être libérer les choses.
Mais il y avait une autre clé de transfert, Shinji. Et c'est l'actu numéro 1.
Ah,
c'est quelle transition.
Il n'y a même pas eu de changement de nom. Les changements de nom.
Non, même pas. Bon, ça, tout le monde n'en a rien à foutre. Je crois que c'était même pas dans le top 20.
Wow.
Parce que la première actu, c'est une actu polémique avec cette question. Massa, remplacé par Rosberg en 2012 chez Ferrari. Ah voilà, donc on a vu la magie de la machine médiatique, hein, qui est capable de s'emballer très vite pour finalement retomber comme un soufflé la semaine d'après puisque Rosberg a prolongé. Même si on sait que dans le contrat, il y a des clauses et compagnie.
On notera quand même que il y a une inquiétude des équipes quant à la possibilité de se baquer chez Ferrari. Mm. Parce que tu remarques qu'on a parlé de Button et comme par hasard, alors c'est Wismarsh qui l'a lâché presque sans le faire exprès. Il y aurait au moins 3 ans. Là, on voit que Rosberg apparemment aussi, c'est au moins jusqu'en 2013. On sent que les équipes essaient de verrouiller leurs pilotes parce qu'ils veulent pas les voir.
Mais rappelons que Rosberg au départ, il négociait un contrat de 4 saisons ferme. Et que là, c'est 2 saisons avec une clause de sortie sur résultat pour la première saison. Mm. Et c'est quand même dans le contrat, il y a une grosse victoire dans la négociation, quand même, au profit de Rosberg. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que, alors qu'il y a eu la rumeur, juste la veille où on a officialisé l'arrivée de Rosberg, il y a eu une rumeur en Allemagne, dans les journaux allemands, qui disait, je crois que c'est comment ça s'appelait le journal, le Kleintung quelque chose, qui disait officiel, enfin, exclusivité.
Oui.
À la Morandini.
Michael Schumacher rallonge en 2013. Ouais, d'accord. Et le lendemain, en fait, on a Rosberg qui prolonge lui. Et on a Schumacher qui dit, attendez, je vais réfléchir. Bah, t'as un potentiel paquet pour Raikkonen en 2013.
Ça va dépendre l'an prochain. Pour l'instant, je pense que c'est vraiment tôt, pour qu'il se fasse une opinion.
Ouais, et puis c'est surtout que là, ça aurait été fait, je pense, dans l'euphorie de quelques courses.
Oui.
Dont on ne sait pas nécessairement la motivation des uns et des autres. Je l'ai dit la dernière fois, peut-être que Rosberg est moins motivé, donc du coup ça fausse peut-être un petit peu les choses. Donc voilà, peut-être qu'il y a aussi face à la peur de perdre Rosberg, peut-être que Mercedes s'est dit attention, il faut quand même qu'on le choisisse ce gamin-là, parce que mine de rien c'est notre talent du futur, et on n'en a pas d'autres derrière pour le moment, bah, en dehors de Di Resta, mais on n'en a pas d'autres derrière vraiment au niveau des cadors. Donc n'allons pas le perdre en trop privilégiant Michael Schumacher. Donc peut-être qu'il y a Anguille sous roche.
Comme tu y vas.
Ah ouais, moi je lance des trucs, moi je suis un fou. Et donc Massa, hein, qui a été confirmé par Ferrari.
Qui a le soutien de Luca.
Oui,
faut pour le dire. Pour un an.
Soyons clairs.
Le soutien de Luca et d'Alonso. D'ailleurs, j'ai une citation sur ça.
Fernando Alonso. Tu veux attendre qu'on fasse les citations?
D'accord. Mais...
Alors, on va peut-être passer aux citations.
Je te faisais une transition et tout, et non.
Oui, mais bah, j'aime pas les transitions.
Et si on passait aux citations?
Oh, mais vas-y.
Bonne idée.
Laisse-moi deviner, t'as une citation sur Alonso, peut-être, non?
Non. oui, j'ai une citation sur Alonso, donc, qui déclare « J'ai énormément de respect pour Felipe et je le considère comme l'un des meilleurs pilotes au monde. Oh. » Donc, plus entendu, Felipe est 5 dixièmes plus autour moins rapide que moi et ça me dérange pas qu'il reste là, histoire de pas trop me déranger pendant que j'amasse les victoires et les podiums.
Mais qu'est-ce qui lui arrive à Fernando? C'est bizarre, non, mais c'est vraiment dans la même semaine, il dit ça sur Felipe et juste derrière, il défend Hamilton.
Journée de la gentillesse.
C'était la semaine de la gentillesse. Il a rattrapé toutes ses saisons, Alonso. Il s'est dit, allez, il est l'heure, j'ai pris du retard dans les papiers, cette semaine, je suis gentil. Mais moi, il me fait peur, Alonso. Moi, je veux qu'il soit con. Hein.
Tu veux dire qu'il est peut-être en train de perdre son mojo?
Oui, justement, non. Il faut qu'il soit con. Il faut qu'il se remette son petit bouc. Mais pas la moustache.
Ah, non.
Non, pas la moustache.
Il laisse ça à Button.
Ouais, bah justement.
On m'a détruit mon drive-through pendant la course, merde. Ah ouais, c'est pour une association caritative. Eh, merde. Ok.
Non, Dino, t'as une citation?
Oui. J'ai une citation de... Ah oh, bah tiens, je vais même pas vous dire qui c'est.
Ah, un jeu?
Ouais, je vais vous laisser deviner. Ah mince, j'en avais une autre que je voulais tenir. Bah c'est pas grave. Je vais garder ça là. Mais je dirai un petit mot sur mon autre citation.
On fera un tour de rôle, j'en ai d'autres aussi.
Bon. Alors, ma citation, c'est la suivante. La rumeur dit que ça pourrait continuer.
C'est pas vague.
Oui, c'est tout.
Le Grand Prix de Corée?
Alors, qui a dit ça par rapport à quoi? Non, c'est pas le Grand Prix de Corée.
C'est par rapport à un Grand Prix?
Non.
C'est par rapport à un pilote?
Non.
C'est par rapport à une équipe?
Non.
Ça rapporte à rien?
Non. Enfin, quoique maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis obligé de dire, oui, ça a rapport avec rien. Mais à l'époque, ça verra pas à quelque chose.
La série de podiums de Vettel?
Non. Mais on se rapproche.
C'est par rapport à l'ère Vettel?
Non, mais on se rapproche.
C'est par rapport à Red Bull?
Plus ou moins. Pour tout vous dire, hein, celui qui a dit cette phrase, hein, que je répète, la rumeur dit que ça pourra continuer, c'est Mark Webber.
Il parle des mauvais résultats de Webber, ça pourra continuer?
Non. J'imagine mal Webber quand même dire, oh, bah, la rumeur dit que je vais continuer à être une buse.
Bah voilà.
Justement, on a parlé avec Felipe, on disait, on est quand même des grosses tâches, hein. Ah, vivement que ça continue. C'est quelque chose qui était censé ne pas continuer, mais lui, il a dit qu'il pourrait continuer, et comme par hasard, le lendemain, on a appris qu'en fait, ça continuerait pas. Autant vous dire que quand il a dit ça, ça a un petit peu fait peur à tout le monde, au point que on se sent obligé de faire des clarifications à ce sujet.
Ça me dit quelque chose.
Quelque chose dont on a annoncé la fin?
Dont on a confirmé la fin et dont on a annoncé qu'elle était totale, cette fin.
Oui.
Les essais privés en saison.
Non. Le soufflage.
Le soufflage.
Ah oui, oui, oh, oui, 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 bien sûr.
Il a quand même lancé cette petite phrase. Moi, je vais beaucoup. C'est surtout le timing, quoi. Il lance une petite phrase en disant, oui, mais vous savez, bon, c'est interdit, mais il y en a certains qui disent que le soufflage bas au freinage, ça pourrait continuer. En fait, et le lendemain, quoi, je dis le lendemain encore, c'est quelques heures après, la FIA dit, attention, le soufflage, toute forme de soufflage est interdite en 2012.
En fait, ça s'explique par le fait que, justement, la FIA avait pas encore confirmé que le soufflage en lui-même, c'est-à-dire le fait d'injecter des gaz d'échappement, allait être interdit. Alors que la mesure qui avait été faite pour contrer ça, c'était de définir un endroit strict où les échappements allaient
aller 10 mètres avant l'axe.
Apparemment, côté de chez McLaren et Red Bull, voulaient faire entre guillemets un soufflage haut. Oui. Parce qu'on peut pas le faire vers le bas, hein, faisons-le vers le haut. Avec quand même cet argument, mais alors le pire argument au monde quand tu veux défendre ton innovation, hein, c'est de dire ah mais non, vous pouvez pas nous l'enlever. Notre voiture, ça fait 6 mois qu'on travaille dessus.
Oui. Bah tu te démerdes.
Voilà. C'est l'argument le pitoyable au monde et c'est celui qu'ils ont sorti.
Surtout quand quelques années auparavant, t'as tout fait pour qu'on abolisse un système qui avait été monté sur une voiture, hein, en leur disant ouais mais c'est pas légal. Puis eux ils répondaient oui mais on a travaillé notre voiture est conçue autour. Oui mais on en a rien à faire. Voilà, c'est tout.
Tu te démerdes.
Non, puis Ferrari ça les arrange.
Bah oui, c'est Ferrari, Sauber et HRT, hein. Qui ont dit, ouais, non, vous criez pas un petit peu notre gueule, là, on a dit pas de soufflage,
c'est bizarre, ça. Ferrari, Sauber et HRT. Les 3 meilleures voitures du plateau.
Oui.
Et donc, toi, Shinji, t'as une citation?
Oui, c'est une citation, alors, d'Éric Boulier, hein, ça m'a fait rire parce que c'est tout ce qui est, comment on peut définir le succès d'une course, hein. Et c'est vrai que la question avec un grand prix comme Abu Dhabi, c'est, est-ce que c'est un succès? Eh ben, pour Éric Boulier, c'est un succès. Hein, parce que il a répondu à une interview, donc on lui demandait à propos d'Abu Dhabi, hein, comment le placez-vous dans la hiérarchie des épreuves modernes. Donc on pourrait parler de succès populaire, de succès course, hein. Mais non, il répond, c'est un rendez-vous à une course très populaire. Pour vous donner un exemple, le nombre de nos invités et l'intérêt que cette course suscite sont absolument débordants. Car oui, pour Rick Boulier, le succès d'une course, c'est donc le nombre de VIP qu'il invite sur, oui. Sur son week-end de Grand Prix. Mais c'est vrai que Abu Dhabi, bon, on se fait chier pendant les grands prix, mais il y a plein de VIP, quoi.
Mais sincèrement, c'est que ils ont hissé des standards en matière de piste. Enfin, circuit, il est incroyable, il est magnifique parce que bon, même si je trouve que on en fait beaucoup sur son côté esthétique, mais quand on regarde par exemple, la piste, c'est un vrai billard, les dégagements sont.
Est-ce que je me suis dit ce week-end, je me suis dit cette piste est super lisse.
Oui.
Le goudron, comme tu dis, il est nickel, il est super plat, les lignes des zones de dégagement, elles sont nickel. Alors, il y a quelques traces de gomme, hein, ça, c'est normal. Mais les murs, c'est pareil, ils sont nickel. Enfin, je veux dire, par rapport à même des circuits récents où, ben, voilà, tu vois que c'est utilisé, c'est usé, des choses comme ça. Il est presque irréel, ce circuit à Abu Dhabi. C'est un circuit de jeux vidéo.
C'est un vrai, voilà. En plus, c'est un vrai parc d'attractions, quoi. C'est-à-dire que vraiment, au-delà même du Ferrari World, c'est que le circuit en lui-même est un parc d'attractions. T'arrives dedans, tu dois être émerveillé. Maintenant, le tracé, bon, est tout à fait critiquable. Et moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est que j'ai trouvé les tribunes très clairsemées ce week-end. Alors c'est quand même un circuit qui n'a que 50 000 places. Donc, c'est déjà un circuit qui a.
Oui,
qui
ça m'a fait rire que la parler. D'un succès populaire, ouais, ça m'a fait rire.
Oui, oui.
Bah, dans ce cas, on va passer à la course.
Je voulais avoir un petit mot pour Zanardi. Qui a remporté le marathon de New York en handisport, sur un fauteuil roulant adapté. Et voilà, donc c'est pour l'exploit et pour la carrière de cet homme qui est absolument incroyable. Il avait c'est pas mal de temps qu'il s'est reconverti là-dedans. Il avait d'ailleurs il remporté une course en WTCC il y a quelques années, malgré son amputation
des jambes. Avec une voiture en effet équipée.
Et là, depuis quelques saisons, il s'est reconverti dans ce domaine-là. L'an dernier, je crois qu'il avait fait un bon marathon, puis il avait eu des problèmes de...
Est-ce qu'il viserait pas les Paralympiques?
Oui, il l'a dit, oui. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que donc il a fini en 1h14, un truc dans le genre, et ça fait sur un vélo à main, et ça fait du 34 km/h de moyenne, quoi, sur les 42 km. Je trouve ça assez impressionnant de faire ça avec les bras.
En plus, le marathon de New York est très vallonné parmi les marathons.
Ouais.
Non, bel exploit. C'est tout, c'est bon, on peut passer à la course.
Bah oui. Ah, mais Gus avait une autre citation, peut-être, non?
En fait, j'en avais 4 au total, mais on peut.
Ah oui. Oh, mais là, quand même.
Oui. Non, une petite, tu peux choisir la meilleure.
Oui, la meilleure. C'est regarde bien les journaux mardi. Donc, c'est Romain Grosjean qui a dit ça, d'après Jean-Louis Moncey, un caméraman de TF1. Ce qui voudrait dire que mardi, donc demain, enfin, donc hier, pour ceux qui écoutent le SAV mercredi.
Donc en fait, les gens qui écoutent, ils disent « Ah, ils parlent de ça !» Parce qu'ils l'ont déjà lu.
Oui.
Donc il y a eu une annonce sur Romain Grosjean mardi. Voilà.
Tu t'avances. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé de nos petits Français.
Bah justement, comme on avait passé la course, avant de commencer les qualifs, j'allais justement rappeler que on a eu quand même 2 Français dans des voitures ce week-end, hein, vendredi matin, avec donc Jean-Éric Vergne qui a fait 11e, donc juste derrière Alguersuari, mais 11e en milieu de peloton, et Grosjean qui fait 12 devant Petrov.
Ouais, bah, on peut dire qu'il y a eu des problèmes techniques pendant toute la séance, donc c'est à relativiser, mais...
Parce que quand même, voilà, c'est...
Voilà, il s'est quand même retrouvé à faire quasiment une grosse partie du boulot de développement, vu qu'il n'y avait pas Petrov, et il a assuré son boulot, et apparemment, il a impressionné les gens de chez LRGP.
Ah ouais, Grosjean a fait 29 tours quand même, sur cette séance-là.
C'est lui qui a le plus roulé, je crois, avec Kartik Eyang ou D'Ambrosio.
Oui, c'est dans ces eaux-là, je crois, en effet. Même Vergne, hein, il a fait 26 tours. Vraiment bien, hein, voilà.
Et d'ailleurs, donc, Vergne, hein, dont on sait qu'il ira chez Toro Rosso. Peut-être pas l'année prochaine, mais Franz Tost a dit...
Ah oui,
que,
oui, il a dit oui.
Quand on écoute les déclarations de Franz Tost, il dit il courra peut-être pas l'année prochaine, mais il courra avec nous. Et apparemment, Franz Tost a hâte de travailler avec lui.
Bah, c'est ça.
Bon, après, c'est ce qu'ils disent aux médias français, donc il y a peut-être aussi un petit côté flatterie, mais bon.
Non, puis c'est pas mal, parce que là, en plus, avec l'annonce de Charles Pic, et puis là, je crois qu'il n'y a pas un Français là qui va faire les Rookie Days aussi.
Oui, chez HRT.
Ça a été annoncé genre aujourd'hui, quelque chose comme ça. C'est Nathanaël Berton.
Ah oui, voilà.
Voilà, qu'on n'attendait pas forcément aux Rookie Days et qui va tourner sur la HRT.
Enchanté. Il vient d'où, lui?
Alors, il était en Formule Renault 3.5 hein, cette année.
Ah, d'accord.
Et en 2012, il sera en GP2 Series. Il a fait le GP2 Asia cet hiver. Et là, il va être en GP2 l'an prochain. Non, mais c'est bien, quoi. C'est-à-dire que à peine, on se dit, bon, il y a déjà 4 qui arrivent, mais il y en a encore derrière. C'est génial.
Moi, c'est ça. Non, mais c'est ce qui est bien, c'est que déjà, on est surpris de voir Pic chez Virgin. On est surpris d'avoir la potentialité de l'année prochaine d'avoir peut-être 3 pilotes français au départ. Et d'ailleurs, on se dit, oh, il y en a encore d'autres. Mais ça pousse comme du chien, non, ces petits-là.
On va passer au qualif.
Oui.
Et cette semaine... En place du con, bon, il a pas fait de temps en Q1 aussi.
Oui, mais il avait l'air... en traversant la piste tout seul, en retournant à son mur, il avait l'air con.
C'est Rubens, bon, voilà.
Ils ont été accablés par le moteur. Enfin, il y a déjà eu le changement de moteur de Maldonado avant le Grand Prix où il a pris 10 places de pénalité. Je crois que Barrichello casse un moteur aux essais libres 1. C'est encore un problème moteur pendant les essais libres 3 qui l'empêche de faire la qualif. Bon, ça fait beaucoup ce week-end dans le premier moteur.
Allez, plus qu'un Grand Prix, c'est bon. Après, vous aurez un moteur oui, fiable.
Puis c'est que le Grand Prix du Brésil, ça va. Et pas trop exigeant celui-là.
Ouais. Donc bon, bah sinon sur le reste de la Q1, c'est du classique. Hein. Alors, même si Ricciardo a quand même fait mieux que D'Ambrosio et Liuzzi.
Ouais.
Pas mal quand même.
Il a même déclaré qu'il aurait pu être devant Glock. Mais que en fait, il a perdu un petit peu de temps justement en dépassant Glock sur son tour rapide. Il a perdu 2-3 dixièmes qui lui auraient permis d'être devant Glock selon lui.
Donc en Q2, en 17e place, hein, on a retrouvé Maldonado, mais comme il y avait changement de moteur...
Il devait partir dernier.
Même pas.
Bah, il devait partir dernier, mais comme Barrichello lui partait 23e, autant changer voilà. De moteur. Ils ont changé de moteur, ils ont pris 10 places de pénalité et donc...
Imagine s'il devait partir du 34e emplacement de la grille.
Arrête la vache, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on, je crois que c'est Enzo qui avait dit ça
ouais.
Il y a 2 ans. Ça serait logique.
Moi 10 places, voilà. Sinon, on peut ôter donc les Toro Rosso 13 et 15. C'est devant quand même, parce qu'on a vu les Toro Rosso plus fringantes quand même ces derniers temps. Les Renault 12 et 14. Oui. C'est dingue quand même de voir les Lotus Renault au même niveau que les Toro Rosso, quoi.
Oui, les dernières courses, elles étaient derrière.
C'est vrai. Donc Lotus Renault, qui, rappelons-le, va changer de nom pour s'appeler Lotus Renault. Et à noter quand même, pour le dire, Virgin qui devient Marussia.
Oui, qui prendra donc théoriquement la licence russe.
Il ne l'avait pas déjà cette année ?
Alors, il voulait la prendre, mais après ils se sont rendu compte que c'était trop tard ou qu'il y avait un truc de licence, et donc ils l'ont perdu.
Mais ils ont,
enfin, ils ont décidé de garder la licence britannique.
Je trouve qu'ils ont bien joué leur coup d'être entre guillemets dans le même paquet. Parce que je me dis que si ils avaient demandé tout seul, je suis pas sûr qu'ils auraient... Voilà, s'ils avaient été tout seuls, on leur aurait dit non, parce qu'on a bien vu Renault cette année, BMW Sauber, on leur aurait dit non, vous restez Virgin. Ils ont bien joué leur coup, voilà.
Mais c'est d'ailleurs rigolo parce que c'est le parce que avant c'était l'écurie Virgin sponsorisée par Marussia, et maintenant c'est l'écurie Marussia qui va quand même garder le sponsor Virgin.
Il va garder le sponsor Virgin. Sinon en Q2, hein, Perez 11e, et à noter que c'est en Q2 qu'on a eu le temps le plus rapide de la qualif.
Ouais.
Ouais, alors bon.
Ah, quand même.
Oui, d'accord, mais Malbranche l'a rappelé à chaque fois pour dire oui, Hamilton, machin,
le Ah oui, non, là, c'est peut-être pas besoin de le rappeler tout le temps, mais c'est quand même intéressant. Surtout
ouais, puis surtout oui. C'est le rappeler tout en oubliant que au moment la Q2 a été marquée par un drapeau rouge et qui arrête Vettel dans un tour où il met 2-3 dixièmes déjà sur les deux premiers secteurs à Hamilton. Donc voilà, ce temps en Q2 a relativement peu de valeur finalement.
C'est ce que j'allais dire.
Et sinon donc en Q3, les Force India, hein, 9 et 10, c'est comme d'habitude. Ah, non, il y a du progrès puisque Sutil a fait un temps.
Oui.
C'est pas toujours le cas. Donc sinon, en 8e place, lui a fait un temps. Bon, c'est Choumi.
C'était juste, hein. Deux fois.
Oui. Il est très très chaud en Q1.
Très très chaud en Q1, ouais.
Il s'est qualifié, je crois, vraiment avec un gros tour dans les dernières minutes. Bah, puis encore une fois, très chaud en Q2.
Je crois que c'est ce qu'ils ont dit, hein, pour Choumi. En Q1, c'était un problème de Kers.
Ouais.
Juste devant Nico Rosberg, 7e place. Ensuite, bah, c'est comme d'habitude, hein, les pilotes Ferrari. Et Mr. Five, alors, ils l'ont dit ce week-end, c'est la 8e fois qu'il s'est qualifié à la 5e place cette saison.
Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il a dit, je suis en 5e place, mais c'est pas parce que c'est la 8e fois en 18 cours que je suis 5e, hein. C'est parce qu'on est tout simplement la 5e meilleure voiture du plateau, par pilote, hein.
Oui.
Et voilà, on est les 5e, voilà, c'est pas parce qu'on a un abonnement à la place, c'est qu'on vaut la 5e place, tout simplement.
Il s'est écrit sur sa voiture.
Oui, c'est vrai, en plus. Ça va devenir son chiffre préféré.
Il était champion du monde avec le 5.
Oui.
Oui, c'est vrai.
Il le sera l'an prochain.
Donc sinon, Mark Webber à la 4e place. Les deux pilotes McLaren. Donc qu'on a senti quand même bien. Enfin, ça fait quelques courses quand même qu'ils peuvent avoir des rires quand même avec cette voiture.
Oui.
Bref. N'oublions pas qu'ils reviennent de loin au final. Hein,
ils reviennent de loin. Oui, voilà.
Au début, à la fin des essais, on n'était vraiment pas sûr de...
Ah, c'est loin, ouais. Et donc, bon, la pole, on était en train de se dire, ce samedi, que le week-end allait être comme d'habitude, hein, une pole de Vettel.
Sincèrement, c'est pas Vettel qui avait la cote samedi, hein. Dès vendredi soir, on a vu l'état de forme des McLaren, c'était assez criant, ils ont fait les meilleurs temps dans toutes les séances, y compris Q1 et Q2. On pouvait assez difficilement, même si on s'y attend parce qu'on connaît le bonhomme, mais on pouvait quand même assez difficilement dire oh, c'est encore Vettel qui va faire la pole.
Non, oui. Mais disons que à partir du moment où il l'a fait, on pouvait se dire quelle que soit la qualité de la McLaren.
De toute façon, c'est le truc de Red Bull, c'est que Red Bull en ce moment travaille énormément sur la course. Ça se sent lors des essais, ouais. Ils sont très discrets, ouais. Ils travaillent beaucoup sur la course. Ils ont su s'adapter au début de saison, ils travaillaient beaucoup sur la qualif et sur la course, on sentait dans le rythme de course qu'ils étaient un peu moins bien. Et là, comme ils sentent que McLaren leur remonte dessus, ils ont abandonné le travail sur la qualif, ils sont un peu moins bons en qualif, ils travaillent moins en qualif et ils travaillent beaucoup plus sur la course et ça se sent, mais en course, c'est vraiment très visible.
On va passer à la course.
D'abord à tous ceux qui ne sont pas dans le top 10. Et je commencerai par les derniers du peloton, Maldonado, Liuzzi et Ricciardo, qui n'ont pas de points. Alors que Glock, lui, a un point. Et oui, Glock, Timo, mon petit Timo, t'as un point. Bon, le vainqueur, il en a 684. Mais t'en as un quand même, c'est déjà pas mal, te plains pas.
Moi, j'aimerais bien savoir qui c'est qui met des points à des pilotes qui sont un peu loin comme ça. Et surtout pourquoi. Parce que bon, Glock, on l'a pas vraiment vu pendant cette course. Je sais pas s'il a fait une mauvaise ou une bonne course.
Je crois que c'est l'écho
de Glock. Il y a peut-être un fan de Glock.
Non, mais ce qui m'inquiète, c'est que ce soit Timo Glock qui vienne et qu'il ne se mette que un point.
Alors que des fois, il y a des gens, ils mettent 25 points à Kovalainen.
Oui, c'est bizarre.
Bon, j'en avais mis 12. Ouais.
Voilà. Ensuite, nous avons Jérôme D'Ambrosio qui a 4 points. Et Yarno Trulli et Rémi Alguersuari qui ont respectivement 8 points. Kovalainen, 10 points. Petrov, 14 points. Senna, 7 points de plus avec 21 points. Barrichello, 22 points. Ensuite, il y a une petite marche jusqu'à Perez, 13e avec 42 points. Kobayashi, 12e avec 53 points. Et Mister Eleven qui ne sera donc pas dans le top 10. Ce n'est pas Schumacher. Mais c'est Sébastien Buemi avec 74 points.
Bah alors.
Et là déjà vous dites, il y a un type par rapport au kilométrage qu'il a fait.
C'est scandaleux.
C'est très étonnant.
On va en reparler.
Alors notez, hein, dans les points que nous on a donnés parmi les hors top 10, alors on va noter, il y en a quelques-uns. Moi j'ai donné 2 points à Barrichello, parce que c'est vrai qu'il part 24e, il finit 12e quoi.
Ouais mais il a une Williams.
Bah justement,
aucun honneur.
Faut dire qu'il a profité de, bon déjà il y a quelques abandons quand même, et pas des moindres. Et puis il y a eu une grosse pluie de pénalités de drive-through, donc il a profité de ça donc, en faisant, j'imagine, une course.
Pas mal d'erreurs aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu Edgar Suari a eu des problèmes au stand,
oui, voilà.
Maldonado a été pénalisé, Senna a été pénalisé, voilà, il y a eu pas mal de choses.
Mais voilà, je vais lui donner du point.
Non,
voilà,
mais c'est ton droit. Je serais mal placé pour te le reprocher.
Non, parce que comme justement, voilà, avec sa Williams, j'ai noté, Gus, que tu avais donné 4 points à Kobayashi.
Effectivement, il revient dans les points alors qu'il est qualifié 16e, il s'arrête au 5e tour, ou au premier, je sais plus, je confonds peut-être avec Perez, mais en tout cas, il y en a un des deux qui s'arrête au 5e tour avec un aileron.
C'est Kobayashi.
Voilà, mmh. Bah, il s'arrête avec un aileron un peu brinque-ballant et puis il remonte, donc lui aussi en profitant des erreurs de ses adversaires. Mais c'est aussi un mérite vu que la Sauber elle est beaucoup moins développée que les autres voitures. Elle a eu beaucoup moins de développement du fait des finances un peu
moins.
Et on
voit qu'elle a un peu plafonné depuis quelques temps.
Ouais.
C'était bien au début, puis bon.
Et c'est un point très important pour la lutte avec Toro Rosso pour la 7e place, vu que Toro Rosso n'en a pas marqué ce week-end.
À noter, Dino, tu as mis 2 points à Alguer Sari.
Ouais. Que je conjuguerai avec les 4 points que j'ai mis à Buemi.
Oui, j'ai mis des points à Buemi aussi. J'ai
parce que...
Tu peux enchaîner, parce qu'en effet, t'as mis 4 points à Buemi. J'ai mis 1 point à Buemi aussi. Et Gus en a mis 2.
Ils ont encore fait, je trouve, une très belle course d'équipe. Et surtout, tout au long du week-end, depuis plusieurs courses, c'est le duel de interne à une écurie qui est le plus passionnant à regarder. Voilà. C'est vraiment... même là, en course, Edgar Suari a eu sa course rapidement ruinée par un arrêt au stand calamiteux. Je crois que les arrêts au stand, c'était 24-25 secondes ce week-end entrée et sortie. 20. Non, mais avec l'entrée de la pit lane et la sortie de la pit lane.
Ouais.
Ah, d'accord.
Après la ligne, en fait. Je crois que son premier arrêt, il fait 48 secondes.
Ouais.
Donc, de toute façon, sa course, elle est déjà foutue à ce moment-là. En plus, après, il a eu un problème après en course. Buemi, il abandonne alors qu'il était dans les points. Voilà, c'est vraiment des pilotes qui sont enthousiasmants à regarder depuis quelques courses, voilà, qui sont intéressants à suivre. C'est le seul fait que je trouve un peu intéressant cette fin de saison.
La déception de Buemi, c'est assez incroyable à voir quand ils l'ont montré une fois sorti de la Toro Rosso.
Ouais.
Et sinon, Dino, tu as aussi donné un point à Kovalainen. Tu as été radin cette semaine.
C'est son pilote préféré.
oui, parce que j'ai dit ça de beaucoup de pilotes, mais lui, je l'aimerais bien chez Ferrari en 2013.
Ah oui.
Je sais plus qui a dit sur Fan F1. Non, Vettel, ce sera pour plus tard. En remplacement d'Alonso. Je vais d'abord le laisser gagner encore quelques couronnes. Après, il pourra venir s'enfermer chez Ferrari, s'il veut. Mais, non, c'est vraiment un pilote qui a rien lâché. Enfin, il est en tête de son propre championnat. Voilà, si on s'amusait à faire un championnat, il serait champion depuis très longtemps de la fin du peloton.
Ça existe, ça, j'ai vu ça déjà.
Voilà, moi, je trouve qu'il fait un super travail. La dernière fois, je lui ai donné un gros coup de pouce. Puis là, on l'a encore vu, à un moment donné, il était 14e. Il est là, il est un tour devant Trulli. Voilà, il y a rien à dire. Il est irréprochable, ce pilote, cette année. Et puis, il est sympathique. Enfin, sur Twitter, il met des tweets qui sont sympas. Il a vraiment... C'est le genre de pilote... Il est bien dans l'équipe, on le sent. Il s'entend apparemment très bien avec Fernandez. Ça fait vraiment plaisir à voir, quoi. C'est le genre de pilote, tu sens qu'il est heureux d'être là, même s'il est en fond de peloton. Il est fier de ses performances et ça mérite d'être salué.
Il y a de quoi être fier, hein. La Team Lotus, elle était assez loin au début de saison. Elle était largement devant les deux autres. Mais là, à pouvoir se battre avec
les
Williams. Oui, ça progresse et ce sera à surveiller en 2012.
Tout à fait.
Alors, en 10e place, il marque un point. On lui a donné au global 89 points. Je lui ai donné 4 points. Gus, tu lui as donné 8 points. C'est Adrien Sutil sur sa Force India. Bon, moi, honnêtement, je l'ai mis 8e au classement hein, parce qu'il était 8e. Gus.
Bah, en fait, moi, dans mon top 10, j'ai deux pilotes où ils ont un tiré, c'est-à-dire, j'ai rien à dire. C'est Rosberg et Sutil. On les a pas trop vus. Ils ont fait une bonne course.
Ouais, voilà.
Après, j'ai rien d'autre à dire, quoi. On les a pas beaucoup vus. Ils ont fait le job. C'est tout.
Bien, dans ce cas, passons à la 9e place, qui va aussi être rapide, puisqu'il a marqué 101 points. Et ben, c'est le coéquipier de Sutil, c'est Di Resta. Sauf qu'aucun de nous lui a donné de points, vous en avez, vu qu'on a donné plein à d'autres. Non, Di Resta,
Bah moi sincèrement, si je les avais mis dans le classement, j'aurais mis Di Resta devant Sutil. D'abord parce que Sutil m'énerve de plus en plus. Voilà, je suis en train de le prendre en grippe et c'est incroyable. Et puis parce que Di Resta, je crois qu'il a fait qu'un seul arrêt.
Oui.
Il est parti en pneu dur, donc il a, voilà, il était sur une stratégie décalée, qui a pas forcément payé, hein. Ceux qui ont fait un seul arrêt ont pas forcément été les mieux vernis. Donc, il finit juste derrière Sutil, je crois. Donc, c'était un beau résultat. Donc, j'aurais plutôt mis devant Sutil, mais comme je les ai pas mis, donc,
Dans ce cas-là, on va passer à la 8ème place. Je lui ai donné 8 points. Gus, tu lui as donné 6 points. Dino, tu ne lui as pas donné de points. Pourtant, c'est un pilote Ferrari. Il a marqué 185 points, c'est Felipe Massa.
Felipe Massa. Attends, chez Ferrari, il y a Fernando Alonso et... Ah, il s'appelle Massa, le petit Brésilien qui est à côté.
Oui.
Ah, c'est parce que je me rappelais plus de son nom, je suis désolé.
Moi, j'appelle le Borgne, moi.
C'est cruel.
En même temps, on a vanné sur Kubica tout à l'heure.
Oh, mais c'était des bonnes vannes.
Oui, là, oui.
Si pas d'œil, pas le chocolat.
Tu sais, c'est celui qui arrive pas à être devant Marc Weber.
Non, c'est... J'ai revu le Massa quand la nuit commence à tomber et que les Ferrari sont moins bien avec les médiums.
Ouais,
Alonso ça... perd 5 secondes sur Hamilton, Massa en perd 25 sur Weber. C'est
j'ai l'impression un peu d'une rechute.
Ouais, sur un tête à queue, mais il y a quand même pas il a quand même perdu pas mal de temps au-delà même du tête à queue quoi.
Oui oui, je suis d'accord.
On a l'impression qu'il y a un peu depuis l'un il y a une petite rechute, tu sais, parce que il y avait eu quelques grands prix où ça avait l'air d'aller mieux et là ça retombe.
Mais en même temps, il a eu ce qu'il a dit en conférence de presse, c'est samedi, je crois, ou vendredi, je sais plus, où il a dit « J'espère avoir un week-end plus tranquille que les derniers ». Bon, bah, t'as eu un week-end tranquille.
T'as eu un week-end tranquille.
Ouais, c'est ça, hein. Il est déprimé parce qu'il a pas croisé Hamilton sur sa route.
Bah ouais, moi je comprends.
Non, pour sa décharge, il y a aussi un élément qui a joué, c'est qu'il avait pas l'aileron 2012 ce week-end, mais c'est quand même plusieurs dixièmes autour. Alors, c'est ça explique pas tout. Hein.
Alonso non plus l'a pas, hein.
Non.
Ah ouais?
Ah non, Alonso l'a pas, justement, c'est Massa qui scoltine le développement du truc.
Je crois
Parkinsonien.
Il me semblait que ce week-end, ils avaient inversé.
D'ailleurs, ils ont retrouvé le, parce que tu sais, t'avais parlé de l'aileron.
L'aileron, c'est un espagnol.
Et en fait, c'est un espagnol qui l'a. C'est pas Philippe, pas chez Ferrari.
Avant de plus offrant.
Dans ce cas-là, on va passer à la 7ème place.
Oui.
Et là, c'est intéressant. Puisqu'il a marqué 243 points, comme le 6ème. Mais il s'est moins bien classé pendant la course. Quand il y a égalité de points, on suit le classement de la course, hein, parce qu'on peut pas avoir d'ex-aequo. Moi, je lui ai pas mis de points. Gus lui a mis un point. Et Dino lui a mis 10 points.
Ouh, favoritisme.
C'est quelqu'un qui quand même, je veux dire, j'ai envie de dire, il devrait être banquier, hein, parce qu'il a quand même tu vois, tout ce qui est taux d'intérêt, il a quand même il y a un rapport qualité-prix, qui est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que marquer 6 points quand on a couru, je vais même pas dire un tour, parce qu'en réalité, il a couru deux virages.
Allez, 800 mètres, même pas.
Voilà, même pas, hein. 6 points quand même pour Sébastien Vettel, hein. Pour dire, là, alors si c'est pas la preuve qu'on l'aime bien, Sébastien Vettel, malgré sa domination, je vois pas ce qu'on...
Mais alors je pense
enfin,
que...
Il y a beaucoup la pole.
Je pense qu'il y a une... D'abord, il y a le fait de la pole, il y a le fait que quand même, il a fait que deux virages, mais dans les deux virages, il a été relativement impressionnant.
Oui.
Et en plus, je pense qu'il y a un deuxième phénomène, moi c'est... Nous on a accès au classement, donc on voit en temps réel le classement, et c'est vrai qu'hier, quand j'ai regardé, je fais, ah non, Vettel, il est haut dans le classement, il était déjà 5-6ème. Oui. J'ai dit, attends, c'est quand même Vettel, faut pas se foutre la gueule du monde. D'accord, il y a la pole et compagnie. J'avais l'envie de lui donner 1, 2, peut-être 4
et
points.
Voilà.
Et puis, là, aujourd'hui, en faisant mon classement, je fais, bon, alors lui, je le mets premier, lui, je le mets deuxième. Puis j'arrive au quatrième, cinquième. Et là, au cinquième, je me dis, merde, je suis obligé de mettre Vettel, quoi.
Parce que
et je me suis dit, finalement, sur l'ensemble du week-end et sur l'ensemble de la course, Vettel m'a montré, j'ai vu plus de choses dans Vettel que ce que j'ai vu sur les autres que j'ai mis derrière. Mais c'est vrai que c'est d'arnaque, parce qu'il fait pas la course, hein, il est pas là. Alors après, il y a peut-être aussi, au-delà même des performances, je pense que tout ce qu'il a montré pendant la course, en restant sur le circuit, ce qui n'est pas
vrai,
forcément
oui.
Une habitude de nombreux pilotes,
image, ouais.
En regardant le problème, après la course en plus, il est allé avec Paul Embry sur le circuit pour ramasser des débris de gomme et puis pour analyser avec Paul Embry l'origine du problème. Donc voilà, je pense que c'est un ensemble de choses sur l'image. Je pense que les gens ont redécouvert Vettel sous un nouvel angle.
Comme j'ai dit, ça va niquer. D'envisager déjà le voir battre plein de records, ça bousille tout. Le nombre de records de victoires dans l'année, tout ça, c'est foutu. Il pourra égaler, mais pas battre.
D'ailleurs, il peut pas le battre, lui. Il peut que l'égaler.
Que l'égaler. Un accident dont c'est toujours pas ce qui s'est passé, pour le coup.
Moi, je pense que c'est le vibreur. Il passe sur le vibreur, alors, et puis une seconde après, ça pète.
Alors, d'après Christian Horner, le vibreur, il le prend normalement. Et d'après la télémétrie, avant que ça pète, il y a rien d'anormal.
Mais qui c'est Christian Horner par rapport à moi, quoi.
Tu parles à Gus Gus, là, oh.
Donc Pirelli va enquêter, voir si ça viendrait pas du pneu. Sinon, est-ce que c'est pas un débris qu'il aurait pu prendre alors, d'ailleurs sur
Pirelli,
le vibreur.
On dit, hein, eux, ça ne vient pas du pneu. Ça qu'il y a le coup des dégâts sur le moyeu de la roue qui bute bien. Alors la question c'est d'avoir est-ce que c'est les dégâts que c'est une casse au moment de l'accident ou est-ce que ce sont les dégâts dus au débris du pneu qui
le fait
ont un impact,
un
etc. Moi je pense que c'est une crevaison, voilà, ça arrive.
Oui, c'est triste sur le coup. Le truc que je me suis dit c'est chouette, il va repartir 24e.
Ah oui, ouais. Ah ouais, ça serait génial.
Et là on voit vraiment de quel bois il se chauffe, quoi.
Ouais, voilà.
Je crois que c'était en Grande-Bretagne l'an dernier où il était retombé, et puis après l'accrochage avec Weber au premier virage où il avait remonté la course et c'était chouette, quoi. Je me disais ouais, on va enfin pouvoir le voir faire une vraie course de champion, quoi. Mais non,
on l'a vu arrêter, on a vu la gueule du moyeu, enfin de la rotule.
Et moi j'ai adoré sa réaction. C'est pas le mec qui s'est dit oh bon bah c'est pas grave, bon bah pour une fois il faut bien abandonner. Non, le mec il a quand même tapé sur son volant de rage en se disant merde, ça là je l'aurais pas.
Bah, c'est un compétiteur, hein.
Quelque chose à rajouter sur les deux virages.
Oui, bon, déjà sur mon classement, moi je lui donnais donc un point. je l'ai mis direct dixième parce que bon, je me disais sur deux virages. Alors certes deux bons virages. Bon, la sortie du deuxième un peu limite. Et mais non, j'ai mis direct dixième sur la qualif et puis sur ce qu'il a montré derrière. Mais les autres ont eu plus de temps pour montrer des choses, même s'ils n'ont pas forcément plus montré. Ils ont fini la course, même si c'est pas de la faute de Vettel, il n'a pas fini.
Mais en même temps, il est soulagé parce que il avait un problème avec le Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est qu'il devait retrouver un design de casque.
Ah oui.
Une petite tradition, c'est que il a décidé que chaque design de casque qu'il arborait au moment d'une victoire, il ne le réutilisait pas après. Donc les casques, en fait, il les garde et jamais il réutilise le design. Et là, il avait dit avant Abu Dhabi, bon bah là, faut que je trouve un design. Genre, bon, j'en change un petit peu trop souvent. Bon là, ce qui est bien, c'est qu'il aura théoriquement le même au Brésil. Donc
ou un autre, et pour lui.
Voilà, celui-là, il pourra le récupérer plus tard.
On passe à la sixième place.
Oui.
Qui, comme je vous l'ai dit, a marqué aussi 243 points, mais lui, il a fini la course. Je lui ai donné 6 points. Dino, tu lui as aussi donné 6 points. C'est Choumi.
Mais Gus Gus, il n'a pas mis.
Non, Gus Gus, pas de points. Sinon, je l'aurais dit.
Oui, non, mais
c'est... Il n'a pas donné de points.
Justement, ça me donne, donc...
je vais me justifier, peut-être. J'ai trouvé qu'il était un ton en dessous de Rosberg, enfin un gros ton en dessous de Rosberg, surtout en qualif. Alors, il a eu des problèmes de pneus. Tout en temps, ou quoi? J'ai rigolé. C'est le gros ton,
c'est ça? C'est la phrase, un gros ton en dessous de Rosberg. Moi, quand j'ai un Rosberg dans mon jardin, quand je le lève, mon Rosberg, j'ai rarement un gros ton en dessous.
Choumi et Rosberg qui ont eu une explication musclée justement au premier virage, même si on était focalisé sur Vettel, il y a quand même eu
premier virage puis au freinage de la ligne droite
voilà
Mais apparemment ils se sont amusés, enfin ils se sont plus à se tirer la bourre. Moi c'est pour ça que je les ai mis dans le classement, parce que sincèrement je les ai pas vus ailleurs et ils ont pas fait non plus grand chose ce week-end pour qu'on les remarque, mais voilà, c'est leur petite bagarre entre eux. Voilà, je me suis dit c'était chouette à voir.
Ouais, c'était correct en plus. Il y a pas, enfin, ils se sont jamais vraiment touchés de toute l'année.
Oui, de toute façon, c'est vrai que Schumacher, c'est seulement quand ils sont plus ses coéquipiers qu'il les tasse contre le mur. Mais non, je dis ça alors que j'ai été fan de Schumacher pendant des années. Enfin, je suis toujours d'ailleurs, mais honte à moi.
Tu le dis pas trop, c'est ça.
Ouais, maintenant je le cache.
Il était fier avant, maintenant il en a honte.
C'est pas que j'en ai honte, mais c'est que ça m'intéresse moins.
Ouais, on te voit, t'es tout rouge.
Oh, de toute façon, sa voiture, son équipe, c'est quasiment une équipe Ferrari, alors tu sais.
Oui, mais les gens qu'il y a dans sa nouvelle équipe Ferrari, c'est plus des gens de chez Ferrari.
Bah, il y a Rose Brown.
Oui, mais il est plus chez Ferrari, Rose Brown.
C'est dommage, j'aurais pu avoir Massa aussi.
Il y a Aldo Costa.
Oui, ça aurait été beau. Aldo Costa, c'est pareil, il est plus chez Ferrari, il est chez Mercedes maintenant. Tu sais, moi, quand t'es plus chez Ferrari, t'es mort. Voilà, tu n'existes plus.
Adieu Kimi.
Mais encore, je suis un tifoso soft, hein, parce que il y a des tifoso hard.
Oui, qui eux, même quand le pilote est encore chez Ferrari, il est déjà mort.
Ah
non, mais je parle pas d'Alonso, bien sûr.
Ah non, ça, ça, moi aussi, je le fais, bien sûr. Ça, c'est un faux-os, c'est normal. Non, il y a ceux qui, quand tu pars, ils t'en veulent à vie. Ils te souhaitent vraiment mort.
Non, quelque chose à rajouter sur Fumi?
Non. Là, on a été tellement élogieux sur les dernières courses que là, sincèrement, je, ça me paraît fade.
Oui, c'est vrai, c'est pas...
Comme un gros thon sans mayonnaise.
Non, voilà, c'est, il fait une belle course, mais c'est vrai que par rapport aux courses précédentes, bah, c'est un peu moins folichon, voilà, mais bon, ça, ça arrive, hein.
Dans ce cas, passons à la cinquième place. Rosberg, à qui j'ai donné 10 points. Gus lui a donné 10 points aussi. Dino, tu lui as donné 8 points. Et au total, il a eu 285 points. Bon. Donc, à part aller à la pêche au thon ce week-end,
Bah, il est allé à la pêche au soumis.
Oui.
Et puis après, je l'ai plus vu.
Comme d'habitude.
Voilà.
Voilà. C'est une bonne course.
Voilà, ce qui est rassurant, c'est que lui, on l'a plus vu, mais on n'a pas non plus vu Michael, donc...
Non, oui, c'est vrai.
Voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire.
Ouais.
Pourtant, le réalisateur avait le temps d'aller voir plein de trucs, hein.
Ouais, mais il y avait quand même des duels et des... Il y avait un suspense, quand même, dans la... Pour ça qu'on dit que la course n'a pas été très intéressante, mais malgré tout, dans l'écart entre les certains pilotes, il y avait des duels à distance qui étaient intéressants.
Oui. Parce que là, on passe à la quatrième place.
Allez.
Oh, oui.
Donc, avec l'homme qui aurait pu se distinguer ce week-end, et qui s'est distingué par le fait qu'il ne s'est pas distingué. Vous m'avez compris,
j'ai pas mal.
Avec la grande question qui nous a traversé l'esprit, mais va-t-il ravitailler au 54e tour ou au 55e tour?
Mais ben non, ces gros cons, ils arrêtent au 54e.
C'est ah, marrant, mais... Alors, mais... on lui a tous donné 12 points quand même. Hein.
Non mais sincèrement, mon frère pourrait en témoigner. J'ai ruminé ça pendant à peu près 2 heures. J'ai dû dire, je crois qu'il a passé ses pneus, 5 tours après je devais dire, ah il va s'arrêter au dernier tour. J'ai envoyé des tweets à James Allen, un chroniqueur anglais, et après quand j'ai vu que c'était pas arrêté au dernier tour, j'ai envoyé des tweets à Red Bull, à Paul Emmer, mais vous pensez
quoi,
pas qu'il aurait dû s'arrêter pour le dernier tour? Mais j'étais énervé, en plus il avait une occasion, même si ça ne marchait pas, une occasion de se dire, voilà, j'ai tenté un truc, quoi. Je rentre, je mets les pneus, je repars, et à peine je suis reparti. Je vois la ligne d'arrivée. Ça aurait été magnifique, surtout que dans le règlement, il n'y a rien qui s'y oppose.
Au pire, s'il n'avait pas ravitaillé, il aurait eu quoi comme pénalité?
30 secondes.
D'accord. Parce que tu sais, il y a un moment où ça peut être plus intéressant de se prendre la pénalité que de, bon, le temps d'arrêt au stand n'est pas assez long pour que ça soit intéressant, mais parce que je me suis posé la question justement sur le coup. Donc là, finalement, il a moins perdu de temps que s'il avait pris la pénalité.
Ouais.
Malgré tout.
Et quitte à prendre la pénalité, autant pas finir la course avec les durs.
Oui, voilà.
Bah oui, voilà, c'est pour ça.
Mais bon, non, mais c'est ça, en plus.
Il perd rarement 30 secondes, quand même.
Alors, en plus, c'est vrai que j'ai pas trop... J'ai quand même le souvenir que la ligne d'arrivée était après le stand Red Bull, ce qui fait qu'il aurait tellement pu rentrer dans le dernier tour, mettre les pneus, repartir, et au moment où il repartait, passer la ligne, quoi. Donc ça se serait fait. Il aurait pas perdu tout le temps qu'il a
mais
perdu en s'arrêtant
après
un tour avant.
Après le fameux Kashumi, est-ce qu'ils avaient pas fait en sorte de déplacer les lignes de chronométrage par rapport à ça? Pour éviter justement ce qu'avait fait Shumi, c'est-à-dire s'arrêter et finir la course dans le stand.
Parce que souvent, sont déplacés avant la ligne de départ même où il y a des stands au même endroit.
Oui, mais alors c'est ça le truc, c'est que s'il l'a pas fait, je fais « Ah, je vais mettre un drive-through ». Mais quand même, j'étais miné de me dire « Est-ce que vraiment il aurait pu le faire ?» C'est pour ça que j'aurais aimé avoir des réponses d'Embury, de... Parce qu'il y a une connerie Twitter, si tu leur poses des questions, ils te répondent jamais. Plus des questions intéressantes, quoi. Ils aiment bien te répondre en disant « Ouais, je suis à l'aéroport ». Mais par contre, quand tu poses une vraie question sur le sens même de la vie fondamentale d'un pilote de course, que dalle.
Non.
Mais sinon, bah voilà, après, tu l'as très bien résumé, hein. Il avait une occasion, il l'a raté.
Ah bah oui, voilà, oui.
Bon, il a quand même pas mal été aidé par son écurie.
Oui, comme on disait au début de l'émission, il a pas vu vraiment l'équipe autant qu'on pourrait le croire, alors qu'il était le seul pilote finalement.
Il faut dire comparer, si on compare les deux meilleurs tours, et ils sont effectués au même tour, le 51e tour entre Weber et Button. Weber, il fait une 42.6 et Button, il fait quand même une 43.1. C'est pas l'écart normal entre les pneus tendres et c'était dur et moi médium et tendre.
Ouais.
Donc, ouais.
C'est pas l'écart normal, donc quelque part, il était pas juste pas assez rapide.
Oui, enfin, c'est quand même en fin de relais avec les tendres. Donc à ce moment-là, l'écart est beaucoup plus réduit théoriquement. Enfin, je trouve que la Red Bull a été bien meilleure en course que ce qu'on pouvait espérer finalement au regard des essais des qualifs.
Ouais.
Mais bon, c'était pas le bon pilote dedans, donc il n'y avait pas de quoi exploiter, quoi.
Ouais.
Surtout sur un circuit comme celui-là.
On va passer au podium.
Ouais.
Youpi.
Et à la troisième place, il a marqué 414 points seulement, j'ai envie de dire. Parce que vous êtes raciste, hein. Vous êtes raciste contre les gens qui sont moustachus.
J'ai eu peur.
Je lui ai mis... Bah, en fait, on l'a tous mis... on lui a tous donné 15 points.
Ah bah, toi aussi, t'es raciste, alors. Donner des leçons.
Mais bien sûr. C'est Button. Button qui n'aura pas de drive-thru contre sa moustache. Indignant.
Mais pourtant, c'était mon drive-thru de secours. J'ai perdu en quoi? En un quart d'heure, j'ai perdu deux drive-thru. J'étais énervé. Non, sur Button, très grosse course, il a malheureusement été handicapé par son Kers. Il y a eu très très magnifique bagarre avec Weber. Voilà, ce qui fait que moi ça justifie qu'ils étaient tous les deux là. Donc voilà, je l'ai laissé devant Weber, alors qu'à l'origine j'aurais plutôt mis Weber devant à cause du pari stratégique.
Ouais.
Bon voilà, mais il est quand même toujours très étonnant. Enfin, même là, Whitmarsh a fait des déclarations aujourd'hui en disant qu'il avait fait une course fantastique. C'est beau de voir ce pilote qu'on a parfois critiqué par le passé pour son manque d'engagement en piste, le voir se bagarrer comme il s'est battu avec Weber, même si c'est fait avoir magnifiquement un beau petit coup de pute de Weber à la deuxième chicane, mais bon, voilà, c'est juste très beau.
C'est du super boulot quand même, si on regarde la saison. Oui.
Et malgré seulement sa troisième place, il est toujours deuxième. Hein.
Ouais, avec 10 points d'avance sur Alonso. Mm. Normalement, c'est bon, sincèrement.
A priori, ouais, c'est voilà. Bon.
À moins qu'Alonso gagne, et que dans ce cas-là, il faudrait que Button fasse pas mieux que quatrième, puisque même en faisant troisième, il prendrait 10 points, il serait ex aequo, mais il a une victoire de plus.
Ouais, mais comme dirait le philosophe Jean-Marie Bigard, admettons.
Oui.
Mais c'est vrai qu'après, Button, quand tu vois ses stats sur la saison, bon, à part ces, bon, y a ces deux bulles, hein, en Angleterre et en Allemagne. Mais après, depuis, bon, à part une quatrième place, en fait, c'est des stats de champion du monde, sauf que...
Non, et en plus, tu repenses un petit peu ces deux premières victoires. On est tous à peu près unanimes pour dire que il a profité des bêtises faites par Hamilton. Bon, il fallait être là, mais il en a quand même profité. Alors que sur les dernières courses, il montre sincèrement que sa position, il ne la doit pas justement qu'à la faiblesse d'Hamilton. Que, comme l'an dernier, il est là pour répondre, qu'il fait son boulot, que quand Hamilton n'est pas là, on le voit beaucoup plus, mais que même quand Hamilton gagne, il est capable d'aller d'aller faire une super course quoi. Donc c'est bien pour lui je trouve, parce que il y avait quand même un petit peu jusqu'à septembre, il y avait quand même un petit peu l'impression que Button n'était bon que parce que Hamilton ne l'était pas.
Mais là il est sur une montée en puissance pour l'an prochain. Attention. On passe à la deuxième place.
Oh, passons à la première directement, Shinji.
À la deuxième place, il a marqué 100 points de plus, hein, 517 points. Alors, moi et Gus, on l'a mis à la deuxième place.
Et moi, je lui ai donné 3000 points.
Pas vrai. Tu lui en as donné qu'une première place.
Ouais.
C'est Alonso.
Ouais.
T'as préféré mettre Alonso à Hamilton.
Que c'est étonnant.
Oui, pour deux raisons principales. D'abord, son départ. Parce que, bon, les deux ont dominé la course et les deux se sont livrés une bagarre très intense et très intéressante. Alonso a encore fait un départ dont il a le secret. Hamilton n'a pas été terrible sur son départ. C'est vrai que Vettel fait un bon départ, mais Hamilton n'a pas été terrible. Voilà, donc il y a déjà ça où j'ai mis un petit avantage à Alonso. Et ensuite, je trouve sur la course, c'est aussi un résultat à l'impression. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'une fois que Vettel n'était plus en course, entre guillemets, il aurait vraiment fallu qu'il y ait un sniper qui tire sur Lewis Hamilton pour qu'il perde la course, quoi. Surtout avec Alonso derrière, parce que la Ferrari a pas été nécessairement grandement à son avantage ce week-end. Ils ont pas fait des essais terribles. Au contraire, c'était même vendredi matin, c'était assez terrible. Des erreurs pour Alonso comme pour Massa, des têtes à queue, Alonso qui finit dans le mur. C'était pas top. Et puis on a revu le chasseur en course et qui a rien lâché. Même si la Ferrari est un peu meilleure en course, il fallait le faire, tenir ce qu'il a tenu, attaquer comme il a attaqué. Je trouve qu'il y avait c'était tellement serré entre les deux que pour moi il y a un petit avantage, un petit bonus à Alonso. Il a plus impressionné qu'Hamilton, dont j'ai estimé que une fois qu'il n'y avait plus Vettel, c'était quand même lui l'homme fort du week-end. Donc il y avait une certaine logique à le voir devant. Je pense qu'il y a quelques semaines, par exemple, il y en a certains qui avaient Vettel devant et Button derrière, et ils avaient mis Button devant. Voilà. Juste au prétexte que Vettel, c'était un peu tendu ce qu'il gagne, si vous comprenez. D'accord? Oui. Merci, Gigi.
Non, puis c'est génial, parce qu'il part cinquième. Bon, il y a l'abandon de Vettel. Et encore une fois, bah, il arrive à amener cette Ferrari qui est quand même moins bien que la McLaren, hein, qui est moins bien théoriquement que la Red Bull de Weber, bah, il l'amène à une seconde place, quoi.
Il perd 3 secondes au stand par rapport à Hamilton sur les arrêts.
Ouais, et puis il souffre un petit peu des pneus médiums. D'ailleurs, ça se sentait.
Ouais, bah oui.
Ils les ont, je sais plus qui a mis, je crois que c'est James Allen sur Twitter qui a dit, Ferrari va être pétrifié par les pneus médiums parce qu'ils ne veulent pas les mettre.
Et ils vont être contents parce que Pirelli, ils veulent des pneus encore plus tendres pour l'an prochain.
Ouais.
Ça va être du chewing-gum l'an prochain, les pneus.
Oui, bon, quand on voit ce qu'ils tiennent en fin de saison, déjà.
Oui.
Tu vois, à Abu Dhabi, les prévisions, c'était pneus tendres 20 tours, pneus médiums 30 tours. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'avec la baisse des températures, les pneus tendres pouvaient faire 25 tours et que les pneus médiums pouvaient faire 35 tours. 35 tours, c'est un peu plus de la moitié de la course.
Les voitures, tu leur mets des Bridgestone, ils courent les 24 heures du temps.
Ouais, d'ailleurs, c'est peut-être le projet l'année prochaine. Hein.
Non, sur Alonso, c'est du Alonso pur jus, quoi, de la hargne, il n'est pas loin, il revient dessus à la fin du premier relais, et l'arrêt au stand, il lui fait perdre trop de temps, du coup, il peut plus rien espérer de lui.
Ouais, en plus, il est tombé sur une HRT en rentrant au stand. Ils ont d'ailleurs eu, parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur les drapeaux bleus et compagnie, et tous les cadors ont eu des mots assez sympas en disant faut pas leur jeter la pierre, notamment Hamilton qui a dit, vous savez, j'ai déjà été dans cette position là et quand vous êtes en train de vous battre, vous regardez pas le drapeau bleu, vous êtes dans votre course et des fois ça peut attendre 2-3 virages avant que vous vous rendiez compte qu'il y a le drapeau bleu. Et Alonso aussi qui a dit que de toute façon qu'il soit tombé derrière la HRT ou pas, ça aurait rien changé puisque Hamilton avait lui-même été gêné. Donc voilà, si on commençait à refaire la course avec Desi, c'est Vettel qui aura gagné, par exemple.
Ah oui.
Et donc on va finir sur la première place, 684 points. Donc vous en doutez, hein, je l'ai mis premier, Gus l'a mis premier, Dino tu l'as mis deuxième. Bah, c'est Hamilton.
C'est Lewis.
Ouais. C'est Lewis. Mais c'est mérité, hein, cette victoire quand même. Hein. Même si, bon... Il y a l'incident de Vettel qui est là, mais...
Mais c'est ça, dire que on peut pas dire que la victoire est imméritée, parce que, sincèrement, les abandons font partie de la course. Maintenant, c'est tellement rare, cette saison, c'est la première fois que Vettel abandonne. C'est tellement une situation qu'on ne connaît pas, qu'on peut pas s'empêcher de se dire quand même, il a pas gagné, c'est, quand il dit que c'est la plus belle course de sa carrière,
t'as
quand même envie de lui dire, attends, t'as gagné deux magnifiques courses, une en Allemagne, qui était vraiment somptueuse, bon, pas face à Vettel, mais face à Alonso et face à Weber, ce qui était pas mal. Et puis une course en Chine où tu finis quand même devant Vettel, à la stratégie en plus. Là, ça, c'est des belles courses. Là, malheureusement, bah, il a gagné une course alors que l'épouvantail de la saison n'était plus en course. Donc, ça lui retire en rien de son mérite, mais ça fait un peu moins, je trouve, briller sa victoire. Ça lui facilite un petit peu la tâche. Ça le met moins en valeur.
De toute façon, il le dit à chaque fois que c'est sa meilleure victoire.
Oui, oui. Il est pour l'épaule
ça sert à rien.
Et il a le sourire. Il a eu le sourire ce week-end.
Il y avait sa maman.
Énorme progrès. Ah oui, c'est vrai.
Il y avait sa maman. Et il y en a qu'on fait remarquer d'ailleurs dans Dimanche F1 que, comme par hasard, le week-end où il y a sa mère, il gagne.
Il avait l'air d'aller mieux et d'être content. Voilà. Là, pour le coup, il était content de sa deuxième place en qualif, quoi. Donc, il a du progrès. C'est bien, ça arrive au bon moment pour lui, quoi, parce qu'il avait vraiment besoin de ça.
Non, puis il se remet dans une dynamique positive, hein, quand on lit ses déclarations, il est positif, il dit voilà, c'est bien pour la saison prochaine, je veux finir sur une bonne note, etc. Tu le sens vraiment convaincu, alors que ça semblait un petit peu méthode Coué ces dernières semaines. Là, vraiment, tu le sens qu'il est sincère dans ce qu'il...
Gus, chose à dire sur la course d'Hamilton?
Non, rien de plus, enfin, c'est génial, quoi.
Ah, j'ai cru que t'allais vomir.
Il y a quelques années, j'aurais peut-être vomi en disant c'est bien qu'Hamilton gagne, mais non. À poursuivre, hein, qu'il soit en pleine forme pour 2012, qu'on ait une belle saison. Que tout le monde J'ai pas dit que je voulais qu'il gagne, attends.
Voilà. Qu'il soit en forme, d'accord, mais bon, si la Mercedes peut être, la McLaren peut être un petit peu ratée, ça serait pas mal. Si jamais il pouvait se remettre avec Nicole, à la limite, moi je serais pas contre. Non, du coup, l'année prochaine, j'aimerais bien qu'il soit pas trop plein de qualité. Deuxième. Voilà. Troisième, c'est bien.
Voilà.
À la limite, deuxième derrière Alonso, ça me dérange pas.
Le classement de Dino. 1 Alonso, 2 Vettel, 3 Vettel.
Ouais, on va dire ça.
Alors, au classement, vous savez, donc Vettel, champion avec 339 points. Donc, non, il atteindra définitivement pas les 400 points, hein, quel que soit le classement.
C'est dommage.
Button, 258. Alonso, 242. Hamilton peut encore être deuxième, puisqu'il est à 234. Hein, un point. Par contre, Weber est à 209 points. Chez les constructeurs, on se demandait quand est-ce que ça tomberait. Eh bien, Red Bull a 538 points et McLaren 492. Donc, c'est bon pour Red Bull au classement du SAV.
Ah, donc je vais pouvoir envoyer les diplômes.
Voilà, tu vas pouvoir envoyer.
Alors, justement, on va en profiter, on va lancer une petite opération. On a prévu pour marquer un petit peu le coup d'envoyer à Milton Keynes donc un diplôme à la fois pour Red Bull et pour Vettel, stipulant qu'ils sont champions du SAV pour la deuxième fois, je crois, pour Red Bull en tant que constructeur et pour la troisième fois pour Vettel en tant que pilote. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme dedans, on va aussi joindre une lettre pour expliquer un petit peu ce qu'est le SAV, etc. Si jamais vous avez envie vous de d'envoyer un message à Vettel au nom du SAV d'apporter vos contributions, de dire voilà, félicitations, un truc comme ça pour vous joindre à cette lettre, vous nous les envoyez par mail savf1@yahoo.fr. même si c'est en français, c'est pas grave, on chargera de les traduire, on fera la lettre, on mettra vos messages dedans avec vos noms ou vos pseudos pour qu'ils voient que c'est pas seulement la décision de nous, mais c'est aussi la décision de vous qui nous écoutez depuis le début de saison, de ceux qui ont participé aux émissions, de ceux qui font que les écouter mais qui vote. Voilà, donc si vous avez l'envie de donner un petit mot, c'est savf1@yahoo.fr. Et on vous tiendra au courant des réponses s'il y a.
Si un jour il y a une réponse.
Mais je pense qu'il y en aura une. Ils vont venir faire une démonstration en Red Bull à Rouen.
Ah non, à Valence.
Non, à Rouen.
Non, prix de Valence.
SAV, c'est rouennais. Vous êtes que des invités.
Sinon, comment tu traduis SAV dans le but?
Service après-vente dans la F1. plusieurs fois, je me suis posé la question. Je sais pas, c'est After Selling Service, non? ASS. Tu vas envoyer un allemand. Bonjour, je suis ESS.
ESS.
En anglais, c'est pas terrible.
Non, c'est clair.
Ah oui, c'est vrai.
You are the champion of the ass, quoi.
Ah oui, il y a ça aussi.
Bah oui.
J'avais une autre interprétation.
Ça fait un peu canular.
Vettel est le champion de mon cul.
C'est Daniel Prévost qui a écrit ça.
Faut l'envoyer à son ingénieur de course, il parle français.
Oui.
Puisqu'il est français.
Rocky.
C'est vrai.
Oui, Rocky. Mais c'est moi pas que ça qu'il l'appelle.
Rocky. Ouais, parce que c'est vrai que c'est
trop dur à dire. Brooklyn.
En anglais.
Brooklyn.
Le pont de Brooklyn.
Dans l'autre classement, Vettel n'atteindra pas les 400 points, parce qu'il a 374 points pour la lutte dans la deuxième.
Pour un point.
Pour un point.
La haine, pas même pour lui, quoi. C'est une mauvaise saison.
Oui. Button est à 255, Alonso 245, Weber 233 et Hamilton 227. Non, il peut plus être deuxième. Hamilton.
Non, faut pas pousser.
Malgré sa victoire, il peut plus être deuxième.
Il fallait qu'il marque un truc genre 20, 22 ou 23 points de plus que ses rivaux pour garder ses espoirs.
Chez les constructeurs, Red Bull 607. Pourtant, ils ne sont pas sponsorisés par Peugeot. McLaren 482, Ferrari 353. Et donc, dans le milieu de classement, Force India est à 57. A marqué un gros pas, hein, parce qu'ils ont marqué ce point. Sauber à 42 et Toro Rosso 41.
La lutte va être sympa.
La lutte va être sympa au Brésil.
Je vous mets Toro Rosso devant Sauber.
Ah, ça serait pas mal, ouais.
Ce serait une bonne raison d'aller au Grand Prix du Brésil.
Retard, elle est prise.
On va passer au fait marquant. Et qu'est-ce que va être chouette, le fait marquant cette semaine?
Yes.
Ah, non, on va passer au drive-through avant.
Ah oui.
Ah oui, les drive-through, oui, c'est vrai qu'on n'a pas donné nos drive-through.
Si, si, parlez pour vous.
Bah, toi, oui, mais nous, non.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-through. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
J'avais un petit drive, enfin c'est pas méchant. Bon, t'as parlé un peu des drapeaux bleus, le fait que les pilotes de tête avaient dit ouais, c'est c'est bon, ça peut se comprendre et tout ça. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors, je sais pas, est-ce que c'est la nuit, je sais pas, est-ce qu'ils ont du mal avec la couleur bleue, pourtant ça s'affiche sur leur volant. Je sais pas, j'ai trouvé que cette semaine, les pilotes avaient un problème un peu avec les drapeaux bleus, je sais pas pourquoi. Bon, notamment Maldonado qui a quand même été pénalisé deux fois pendant la
course. Pour le même problème.
Pour le même problème.
Il prend un drive-through et après, direct, il prend l'équivalent d'un stop and go.
Un stop and go, 30 secondes.
Mais donc, voilà. C'est parce que la nuit, tous les voyants sont gris.
Ça y est, j'ai atteint le seuil, Shinji.
Voilà.
Ça y est, c'était ma dernière vanne de la saison.
Je attends, il y avait cette raison tout à l'heure.
Oh merde, j'ai pas
entendu. Voilà. Encore une émission. Il faut que tu tiennes, Dino.
Tu tiennes, oui. Voilà, c'était un petit drive-through quand même, mais voilà.
Alors moi, ça sera un petit peu comme toi, il y a 15 jours, c'est un drive-through sans être un drive-through, c'est plus une réflexion globale à la fois sur les gens qui font l'objet de ces articles, mais aussi sur nous qui faisons ces articles. Quand je dis nous, c'est tous les médias. C'est un drive-through contre les interviews qui se répètent pour dire la même chose. Je pense notamment à Daniele Morelli, le manager de Robert Kubica, qui à peu près toutes les deux semaines nous fait un point santé sur Robert Kubica pour nous dire la même chose.
On verra dans deux semaines.
Voilà, on verra bien. Bientôt, ok, d'accord. Et donc du coup aussi remettre derrière en cause aussi le choix aussi, parce que bon, il en parle, mais s'il en parle, c'est aussi parce qu'on lui pose des questions, pour ça que j'ai pas envie d'en faire un véritable drive-thru contre lui, des médias en général, et dans ça, je nous inclus nous aussi, parce que bon, voilà, on va pas non plus faire, il y a que la concurrence qui traite comme ça, on est aussi dans cet effet-là, c'est de s'acharner sur certaines infos, voilà, sur Robert Kubica, on compte plus le nombre d'articles qui en parlent pour fondamentalement nous dire la même chose. Je suis assez content sur Fan F1 du traitement qu'on réserve à la rumeur sur Kimi Raikkonen. Voilà, je sais que certains autres sites français comme étrangers, dès qu'il y a le moindre soupçon d'un nouvel épisode, on en fait trois paragraphes et on publie une news et ça fait du chiffre. Voilà, ce que je suis content, c'est que en tout cas chez Fan F1, il y a une sorte de d'accord pour dire voilà, les rumeurs sur Raikkonen, on va pas non plus en faire une chaque semaine. Le but du jeu, c'est pas de créer de la rumeur, c'est attendons de voir comment ça se décante, si ça se vérifie, et puis vraiment ne retenons que les étapes principales. Donc c'est un peu un drive-through sur cette actualité, je trouve F1 qui devient ennuyante parce que elle se répète en fait. Voilà, on est dans une actualité qui se répète énormément. Aujourd'hui, quand je vois un article sur Robert Kubica, j'ai plus envie de le lire parce que je sais qu'on va encore lire les mêmes déclarations de Boullier qui va encore nous dire qu'il faut attendre, qu'ils veulent donner du temps. Là, je crois qu'ils ont encore fait une interview en disant on va adapter le temps. Alors voilà. Voilà, donc c'est un peu l'ensemble de la Formule 1 que je voudrais concerner. Voilà. On peut donc passer au fait marquant, Shinji.
Donc, rappelez-vous, nous vous demandions qui était le fait marquant du Grand Prix d'Inde. Vous avez été 32 à voter, comme d'habitude. On vous remercie, de même qu'on remercie tous ceux qui ont voté au top 10. Est arrivé 3e, avec 7 votes. D'ailleurs, c'est 3e, c'est 2e ex aequo. Donc, 7 votes, les suspensions en verre de Massa, 21,88%.
C'est qui ça?
L'auditeur, non?
Peut-être, ouais.
Est arrivé donc 2e ex aequo aussi. Donc, ce qui veut dire qu'il mériterait aussi le premier choix, hein, rappelons-le.
Alors, ça, c'est ton choix à toi.
Première course, premier succès pour le Grand Prix d'Inde.
Oui, 21,88%.
Quoi, il n'y a que moi.
Oui, ça, c'est toi, ça.
Est arrivé donc premier, et bien dans la merde cette semaine, 18 votes, l'énième accrochage d'Hamilton et de Massa, 56,25%. Ça marche bien, hein, parce qu'en Corée, déjà, c'était Hamilton.
Oui.
Et d'ailleurs, au Japon, c'était Button qui prend l'ascendant sur Hamilton.
D'ailleurs, aujourd'hui, je vais mettre Hamilton et Massa qui ne se sont pas accrochés.
Non, mais attendez, je dis un truc. En Corée, c'était Hamilton qui brise la série de pôles. Au Japon, c'était Button qui prend l'ascendant sur Hamilton. À Singapour, c'était Hamilton qui débranche son cerveau. En Italie, c'est la résistance de Schumi face à Hamilton. C'est-à-dire quand même que depuis le Grand Prix de Belgique, à chaque fois, il y a Hamilton dedans.
Bon, tu sais quoi faire maintenant.
Alors, comment on fait? Parce que là, on a des ex-échos.
Bon, priorité à l'auditeur, Shinji.
Oui, c'est vrai.
C'est normal.
Il le subit un petit peu, ce choix. Il a pas...
Oui, en fait, moi, je m'en fous. J'en ai 5 d'effets marquants, mais c'est pas grave. La crevaison de Vettel, hein.
Oh, sans blague.
Aïe, aïe, aïe. Sinon, j'aurais dit la réapparition de Jean-Pierre Jabouille.
C'est pas couillon, ça. Je regarde, vas-y, donne les autres pour voir.
Ah non. Non, je ne dirai rien.
Alors, qu'est-ce que je vais dire? Bah attends. Hamilton qui renoue avec la victoire.
Ouais.
J'ai envie de gagner.
Je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Ah, j'ai trouvé. Alors, tu écris bien comme je te le dis, hein.
D'accord.
Tu mets Hamilton.
Ouh.
/ Alonso. 2 points. Il s'aime. Voilà. Avec un point d'exclamation à la fin, Shinji.
Oui, oui, le point d'exclamation.
Attention, hein, il s'aime, le verbe aimer, hein, pas semer. quoi que ça aurait du sens aussi, mais.
Donc, nous vous proposons, hein, quel est le fait marquant du Grand Prix d'Abu Dhabi 2011? Vous avez le choix entre la crevaison de Vettel, Hamilton qui renoue avec la victoire, ou bien Hamilton Alonso, il s'aime.
Ah, je l'adore celui-là.
ça fera un beau troisième.
Votez pour moi.
On va passer au concours.
Oh oui, oh oui, oh le concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con, quoique.
Et avant de passer au concours, Shinji, je voudrais faire un petit point.
Oui.
Parce que j'ai passé toute ma soirée d'hier à réécouter les émissions pour faire la liste de toutes les réponses qu'on avait eues.
Oui.
Et je me suis pété quelques fous rires. Notamment sur la première émission quand on s'est amusé à expliquer le concept, hein, et que je me suis dit ça aurait été bien d'être le jour de la journée de l'utilisabilité,
oui,
qu'on puisse expliquer
voilà.
Comment c'est utilisable.
Tu vois, comme quoi ça aurait été utile.
Ouais. Donc je rappelle que nous avons Globen qui a 1, 2, 3, 4, 5 victoires à son actif cette saison.
Oh,
c'est le Sébastien Vettel. Du coup,
ça fera plaisir au moins la comparaison.
Donc en l'état actuel, il disposera de 5 tickets pour le moment pour le tirage au sort final. Nous avons ensuite Wonderwall qui avait gagné en Malaisie qui aura 1 ticket. Nous avons Zilex qui de mémoire aura 2 tickets. Nous avons Steve qui aura 2 tickets, 3 tickets même, excusez-moi. Ensuite, nous aurons Gus Gus, qui aura 2 tickets de victoire, dont la dernière au Japon. Et cette question, combien de propriétaires a eu l'écurie Force India sous ses différentes formes? Et la blague de Shinji, que va nous refaire Shinji pour qu'on la comprenne? Vas-y Shinji.
Ah oui, attention, ça ne concerne pas Sarah, le dromadaire extraterrestre.
Ah, des bonnes, Shinji. Tu sais que je reçois des lettres tous les jours me demandant d'expliquer cette blague, Shinji.
Je n'en doute pas, parce qu'il faut avoir plus de 20 ans pour la connaître.
Mais même moi, je la connais pas, donc.
Oui, là, après, j'ai 22.
Parce que tu regardais les minicum, c'est pour ça.
Ben voilà.
Minicum. Ah, minicum.
Ensuite, nous avons Maël qui aura 1 ticket pour sa question sur l'escargot en Hongrie. Bilo aussi qui aura 1 ticket pour le moment. Hein. Et puis, c'est tout, je crois. Oui, c'est tout pour le moment.
Oui, donc on a
et il nous reste donc
personne.
3 places disponibles. Donc, on rappelle hein, que tout ça, on fera un tirage au sort après le Grand Prix du Brésil. On vous laissera le temps. On fera un tirage au sort. Et à noter qu'il y aura 1 ticket blanc, celui du Grand Prix de Chine où personne n'avait répondu.
Ah oui.
Donc il y aura un ticket blanc. Si on tire en sort le ticket blanc, c'est marrant.
Bah le cadeau, ça sera pour nous.
Voilà.
Ça veut dire le ticket blanc, c'est essaye encore, non?
Non, le ticket blanc, c'est un ticket blanc.
Vous avez été des merdes au Grand Prix de Chine. Vous avez été des merdes au Grand Prix de Chine.
Voilà, il va falloir assumer. Et donc, nous allons passer au concours top opposition du Grand Prix de Corée. La réponse à la question qui nous était proposée par Globen, à savoir combien y a-t-il d'attractions dans le Ferrari World d'Abu Dhabi? Et nous avons reçu 2 réponses, Shinji.
Ouh.
La première qui dit, si je puis me permettre une minuscule aparté, la distance de Boud à Bi. Ah oui, parce que celui-là, il a répondu
oui.
À l'autre question.
Oui, c'est vrai. On a...
Donc, Boud dans le Puy-de-Dôme à Bi en Thaïlande est d'environ 9238 km à vol d'oiseau selon Google Maps. Oui. J'ai aussi la distance entre... entre une... Pardon, c'est que faut que je la fasse sans accent. Entre une Boud et Bibi, qui est à l'heure actuelle à peu près équivalente à celle entre mon bureau et mon frigo. Fin d'aparté. Donc voilà.
Non, avec... tu l'as mal dit. Faut pas,
c'est
pas...
Oui, faut, Bud. C'est Bud, mais bon, si je dis Bud, c'est pareil, ça marche plus.
Mais oui, mais non, mais on aurait compris.
Oui, non, tout le monde n'aurait pas compris, Shinji.
C'est vrai,
crois-moi.
Si ils comprennent pas Sarah, ils peuvent pas comprendre Bud.
Moi, j'ai pas compris.
Pourtant, c'est ta génération, Bud.
Ah bah, c'est de Bernard Junior, c'est Casey Kane.
C'est Homer. Ah non, merde, c'est pas Homer. Je me fais voir. C'est bien, on a quelqu'un qui suit la NASCAR.
Ah bah oui.
Donc celui-là avait aussi répondu hein, la bonne réponse, hein, qui est 19 attractions, puisque la deuxième réponse nous dit « J'ai trouvé 19 attractions pour le parc Ferrari World à Abu Dhabi, mais le site de l'attraction ne précise pas le nombre de sacs à vomi pour les montagnes russes.
Ouais. »
Voilà. Donc je te dis, hein, les deux réponses sont bonnes. Hein.
Ah oui.
Ils ont tous les deux répondu 19. Donc je te propose les questions. Attention, question numéro 1. Combien de tours Rubens Barrichello a-t-il mené au total à Interlagos en Formule 1? Question number 2. Sur les 38 Grands Prix du Brésil disputés à ce jour pour le compte du championnat du monde de Formule 1, combien ont été remportés par des pilotes brésiliens? Alors Shinji, quel est ton dernier mot?
Eh bien tu vois, le mot intéressant c'est le mot dernier. Et comme c'est probablement le dernier Grand Prix de Rubens Barrichello, autant lui rendre un petit hommage.
Oui c'est vrai. Donc tu choisis la Rubens, la Rubens sur réponse.
La Rubens, ouais.
La question sur Rubens.
Oui.
T'es sûr?
C'est ton dernier mot?
Oui, c'est mon dernier mot.
Ah ben dommage, Gus Gus. Puisque c'est Gus Gus, hein, qui pourtant avait calculé la distance de Abu Dhabi, qui a proposé la question sur 38 Grands Prix, combien de Brésiliens ont remporté le Grand Prix du Brésil. L'autre question, qui est la suivante, combien de tours Rubens Barrichello a-t-il mené au total à Interlagos en Formule 1, et à laquelle, bien évidemment, vous pouvez répondre d'ici 15 jours maximum pour le SAV du Grand Prix du Brésil, en répondant sur savf1@yahoo.fr ou directement sur le site fanf1.com, rubrique en plus, contact et destinataire, le SAV de la F1. Vous répondez bien évidemment avec la réponse à la question, c'est assez logique, et en nous rajoutant une autre question qui, elle, ne pourra pas être sur le Grand Prix du Brésil, puisque c'est sur le Grand Prix d'après et qu'il n'y a pas le Grand Prix d'après, si tu es bien d'accord.
Donc d'Australie, non?
Donc vous allez faire une question sur un thème que Shinji va décider dans quelques minutes. Voilà, il va vous donner un thème. Okay.
C'est gentil de m'avertir là juste une seconde avant. De...
Mais, comme ça, j'ai le temps, si tu veux, Shinji, d'annoncer le nom du vainqueur.
Ah bah oui.
Qui va se voir attribuer un quatrième papier. Puisqu'il s'agit de Steve, qui revient donc à une longueur de Globen. Voilà.
Moi, c'est pas Globen, ça va.
Et donc, Shinji, il nous faut une question.
Faut
pour
que
le
ce soit obligatoirement un thème en lien avec la F1.
Peu importe, tu fais ce que tu veux.
Aïe, 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 aïe. Ça sent... Il répond non. Il va pas répondre non.
Vous allez devoir expliquer le jeu de mots.
Fais gaffe, hein, parce que quand tu me réponds ça...
Une question sur les gros tons.
Non, j'ai envie d'être solidaire avec le Japon, parce que c'est bien d'être solidaire avec le Japon, c'est bien, c'est
quand même
d'être solidaire avec le Japon. Oui, pourquoi?
Pourquoi je te demande une question?
Non, un thème.
Un thème.
Oui.
Tu me demandes un thème,
oui,
pour
c'est
la
vrai.
Question.
Tu vois, même lui, il comprend rien à son
jeu. Ah oui, oui, non, c'est bon, j'ai rien dit. Oui, c'est bon. Hein. Non.
Un thème pour une dernière question, pour la voilà. Dernière émission. Donc, comme j'ai envie de soutenir le Japon, j'ai envie de vous poser, de vous demander une question sur les centrales nucléaires.
Et s'y relever.
Je suis désolé. J'avoue, je vais laisser le choix du thème et c'était une connerie.
Bah oui,
voilà. N'importe voilà, quoi, donc... ce que vous voulez, mais faut que c'est un lien avec l'atome.
Donc voilà, donc. Attention, hein, pas le fromage.
À quel degré fabrique, à quelle température fabrique-t-on l'atome de savon?
Voilà, pas le fromage, attention.
Sauf donc, voilà, donc... dans une centrale nucléaire, bien évidemment.
Donc, bien évidemment, à votre réponse à la question, hein, que je rappelle, la question de notre ami Steve, qui était de savoir combien de tours a mené Rubens Barrichello à l'occasion du Grand Prix du Brésil dans toute sa carrière en Formule 1, voilà, vous joignez une question, pour qu'on puisse vous sélectionner, une question qui se fera autour du thème de la centrale nucléaire, en hommage à ce magnifique pays verdâtre qu'est le Japon.
Fluorescent, je dirais.
Voilà.
Oui.
Petit indice, la réponse est entre 0 et 2643.
On va passer à la prochaine course, la dernière course de la saison.
Oui.
The last but not least. Mais en
ouais.
Fait, si, parce qu'il n'y a plus vraiment d'enjeu. Mais bon.
Mais avant, Shinji, avant d'aller oui. À la prochaine course, moi, je suis pas sûr de vouloir y aller.
Bah,
faut qu'on
oui,
nous
enfin,
corrinque,
ça se comprend.
Ou au
bah,
contraire,
oui.
Qu'on nous dégoûte.
Mm-hmm.
C'est l'heure des fameuses 7 bonnes ou moins bonnes raisons d'aller ou de ne pas aller au prochain Grand Prix.
Eh bien, je vais vous tenter de vous dégoûter. Ce sont les 7 bonnes raisons de ne pas aller à Sao Paulo pour assister au Grand Prix du Brésil.
Oh, t'as choisi de la facilité.
Ah bon? Peut-être. Bon, déjà, la première raison, c'est que cette fois-ci, c'est sûr, Barrichello va gagner à Interlagos et il sera champion en 2012. Champion des pilotes retraités. Deuxième raison.
Ce sera le mec le plus rapide à prendre sa retraite. Hein.
Oui, le mec le plus rapide en fauteuil roulant.
Avec Zanardi.
Et Kubica?
Ah non, il a pas le fauteuil roulant.
Ouais.
Il a juste pas de main.
Donc pas de chocolat.
Ah, oh, Shinji, on a dit qu'on arrêtait ces blagues. C'est indécent.
Bon, deuxième raison. De gré ou de force, vous verrez la course de Nico Rosberg.
Oui, c'est vrai. Quoi qu'à Monza, j'ai pas trop vu Rosberg. Ah bah non, je suis con, il a abandonné au début. C'est pour ça.
Il veut pas que toi, tu vois ses courses, en fait.
Oui.
Troisième raison. En économisant le prix d'un billet d'avion Paris-Sao Paulo, vous pourrez vous offrir la moitié de la ville d'Athènes.
Ah, c'est encore cher. Pour un tas de ruines,
c'est vrai.
Quatrième raison. Avec la criminalité assez répandue, vous risquez de vous retrouver sans argent dans un pays étranger. Et là, aucun membre de votre famille ne pourra venir vous chercher en voiture. Mais je ne peux pas vous en blâmer. Ça arrive au meilleur d'entre nous. Dédicace à moi-même lorsque j'écouterai l'émission.
Ça là, on n'a pas compris, mais je crois que c'est normal.
Voilà.
Bon, c'est rien. Pas grave. Je vous raconterai.
Non, il va juste mourir. Il a prévu de mourir demain, donc...
Cinquième raison, pourquoi assister au Grand Prix en vrai quand on peut le regarder à l'atelier Renault des Champs-Élysées avec 10 kékés avidés en chemise Mile 7 qui gueulent comme des veaux, le tout avec les commentaires de TF1 en fond. Là encore, je vous parle d'une expérience personnelle traumatisante. Sixième raison, vous allez rater Walker Texas Ranger.
C'est vrai,
c'est vrai. Bah, quoique pour le Brésil, c'est plus tard, donc...
Bah oui, on l'aura avant. On aura Washu à 14h et le Grand Prix à 17h.
Si tu es à Sao Paulo, tu verras pas Walker Texas Ranger.
Voilà. Ah oui, c'est vrai.
Par contre, on le verra quand on ira l'an prochain à Austin.
Ah bah oui.
Ce sera au Texas.
De toute façon, si tu le vois pas cette fois-là, tu le verras dans 2 ou 3 ans quand il y aura la prochaine rediff. Septième et dernière raison. Même si vous y rencontrez la charmante Roberta, ne vous faites pas d'illusions. Ses vieux amis l'appellent encore Roberto.
C'est le spécial Brésil.
Bah oui.
Donc elle est charmante, Roberta.
Oui. Cette septième raison.
Non, il est charmant, Robert.
153.
Elle est un peu velue, mais.
Elle est pas portugaise. Elle est brésilienne, non.
Ouais. Enfin, elle est brésilienne, quand même.
Alors, dernière course au Brésil.
J'ose plus dire Vettel. J'ai peur qu'il abandonne. Elle est Weber, tiens.
Pardon.
Moi, je verrais bien pas mal de flotte. Donc pourquoi pas un Button.
Et toi, Gus?
Et toi, Gus?
Alonso, allez.
Oh non, 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 pas Alonso, non, tu vas lui porter malheur. Non, à chaque fois qu'on pronostique, Alonso gagne pas.
Allez, Barrichello, c'est bien parce que c'est vous. J'ai dit la première raison, cette fois-ci, c'est sûr, Barrichello veut gagner à Interlagos. C'est écrit.
Ah, tu me diras, l'an dernier, Williams, ils ont fait une pole. Bon, cette année, ils font la pole à partir de la fin. Ouais, parce que eux ils ont monté leur 9e moteur. Imagine, tous les autres montent le 9e moteur. Ils sont en pôle.
Sauf si eux montent leur 10e moteur.
Allez, boule.
Il faut pas qu'ils roulent en essai, du coup.
Ah, c'est dommage.
Allez, on arrive à la fin de l'émission.
Ouais.
Ah, déjà.
Eh oui, déjà.
Ah, c'est court, hein, mais c'est bon.
Ah, déjà, on peut quand même faire un peu saluer notre octuple. Ouais, c'est ça, octuple.
Oui.
D'ailleurs, chez Menen, il faut que vous changiez vos pubs.
Oui, c'est vrai. J'ai fait la remarque.
Non, mais on s'est tous fait la remarque. Fait, non, c'est plus 7, c'est 8. 8 fois champion du monde, consécutivement.
Avec cette question, est-ce que c'est plus fort que Schumacher?
Oh, rien à voir.
Bah là,
voilà, tout à fait, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Alors, il y a, dans 20 minutes, il y a une courte interview de Didier Auriol, qui grosso modo dit, ce qu'on disait sur Schumacher à une époque, ouais, jamais il aurait eu autant de titres s'il y a eu de la concurrence en face, à mon époque.
Didier Auriol, c'est le seul type qui soutient Sébastien Ogier.
Oui.
Voilà.
Non, puis il dit, à mon époque, c'était plus serré, il y avait plus de concurrence, etc.
En grosso modo, lui,
son titre acquis à son époque vaut plus que certains des titres de l'homme.
En même temps, il roulait sur Toyota, quoi.
Ouais.
Oui.
Alors que là, Citroën, franchement, la voiture de Bourville, c'est pas terrible.
Ah oh bah, elle va bien m'a marché, hein.
Ah, on en a encore un qui fait Bourville, s'il dit.
Ouais.
Il fait Bourville enrhumé.
Encore une fois, il est à 8, mais
bah maintenant, il faut aller chercher, c'est Rossi, je crois qu'on a 9.
C'est pas possible.
125, 250, et 7.
Tout le monde l'a dit, en sport auto, C'est bon quoi. Non,
j'ai regardé parce que au départ.
Moi aussi j'ai regardé, ouais.
Je voulais faire un peu un truc, vous demander les sports où il y en a eu le plus eu. Et ce qui est rigolo, c'est que je me suis arrêté assez rapidement parce que ça, c'était gigantesque à faire sur tous les sports. Mais les premiers sports sur lesquels je suis tombé, c'est le ski et la natation. Et c'est là où on a des
ouais, mais c'est, oui.
7, 8 titres mondiaux. Je crois qu'il y a une fille au ski. Il y a Marielle Guatchel qui a 9 titres de championne du monde. Mm. Mais bon, en une année, ils peuvent faire championne du monde de combiné, champion du monde d'alpin, de slalom.
Voilà.
Donc, voilà, là, c'est vrai que statistiquement, c'est entre guillemets que 8 titres sur l'échelle de tous les sports, mais c'est un titre par an maximum. Ils peuvent pas faire plus. Donc, c'est 8 ans de domination. C'est plutôt en ça qu'il faut raisonner. C'est 8 ans de domination sur un sport. Il y a quasiment aucun sportif au monde qui peut sans doute s'en vanter, quoi, parce que c'est 8 ans, c'est énorme.
Qui faisait du ski nautique et qui est quelque chose comme 13 fois. Presque soit champion du monde, Patrice Martin.
Oui, oui.
Mais après, il y a aussi les mecs qui font du surf, là, qui sont...
Kelly Slater.
Kelly Slater,
ouais. Ouais, comme ça. Mais c'est vrai qu'en sport automobile, ouais, j'ai regardé, même en regardant, donc bon, en championnat du monde, il y en a pas, même sur des choses comme le NASCAR ou la DTM, qui sont quand même des championnats importants, non, il n'y a pas souvent la barrière 7.
Alors c'est vrai qu'après, bon, on peut débattre sur le fait qu'il y a peut-être moins de concurrence, que... Voilà.
Oh bah, cette année, quand même... Ça n'a pas été le plus simple à voir. Ouais.
Non, puis en plus, il y a souvent eu, par exemple, contrairement à Schumacher, il y a eu une sorte de continuité réglementaire. Dans, il n'y a pas eu de nouveaux défis qui se sont présentés véritablement à lui. Là, il y a quand même eu à chaque fois, je crois qu'il a été champion sur 3 voitures différentes, la Xara, la C4 et la DS3. Voilà, il y a eu des réglementations différentes. Il a, voilà, c'est... Puis il a quand même rencontré pas n'importe qui non plus. Grönholm, même si c'est en fin de saison, Grönholm, il a eu raison de mettre comme Sainz, pas n'importe qui non plus. Dans ce sport-là.
Macrae
aussi.
Macrae. Puis il était champion sur une voiture privée en 2005, en 2006.
Aussi, oui. Ouais.
Enfin, elle avait le privé que lui.
Ouais. Ouais. Et puis bon, bah là, il y a eu Latvala, Hirvonen, et puis Ogier. Parce que c'est un peu la grande question qu'il va y avoir en rallye pendant l'intersaison, c'est est-ce qu'il va rester chez Citroën ou pas.
Dit que non.
Il y a une Loeb, il a déclaré que il avait bien aimé la bataille avec Hirvonen et que ça ferait un bon coéquipier.
Ah bah oui, parce qu'il a eu des mots là aussi. Lui qui a pendant toute la saison été très mesuré par rapport à ce qu'a dit Ogier, il a balancé parce que même Loeb il peut balancer.
Oui.
Sur ce, on vous remercie de nous avoir écoutés. Gus Gus, merci d'avoir été avec nous.
Oui, surtout qu'au départ, je lui avais demandé de venir. Puis il était pas sûr, puis en fait il a réussi à se libérer, donc doublement merci.
Je vous en prie, enfin, c'était un plaisir.
Tu as permis d'assurer la diversité des interventions dans le SAV.
Oui.
Bien tant mieux.
Comme d'habitude, on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, en fonction de l'heure que vous nous écoutez. Et pour l'avant-dernière fois de la saison, nous allons nous quitter sur des mots que peu de gens comprennent.
Bon bah là, c'est vraiment, si tu comprends pas, t'as une paire de claques.
Ah, ça changerait, ça serait bien.
Ah, arrête. À chaque fois, après, tu viens me voir en me disant, ouais, il était bien, j'ai tout compris, les gens vont adorer. Sérieusement, le SAV, on pourrait faire le SAV juste sur cette rubrique. Un jour,
les gens n'entendent pas après, mais après, on lui dit. En fait, on lui dit rien parce qu'on cherche encore à comprendre
C'est pas vrai. À chaque fois, tu me félicites, tu me dis, c'est tellement mieux que l'éphéméride, c'est tellement mieux que c'est vraiment une rubrique phare, quoi. Il y a des heures de travail.
Alors que.
D'ailleurs, vous allez sentir les heures de travail grâce à mon proverbe que je vais vous dire là dans à peine 15 secondes. L'émission se termine dans 15 secondes, messieurs. Maintenant, dans 10 secondes, quand j'aurai fini de dire ce proverbe, qui est un proverbe magnifique sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui dit « Qui part à la casse, perd sa place. »